Les Knicks sont champions NBA.
Incroyable.
Cette phrase est réelle.
Nous aurons vécu. Ah, parce que personne ici sur ce canapé, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire Messi, Alex, tout ça, machin.
Mais si.
On aura vécu un titre des Knicks.
Deuxième titre de
notre
Alex.
Vivant de fan.
Tout à fait. On y est.
Bah.
Knicks in 5.
Knicks in 5.
On y est.
Toi, t'avais dit quoi, toi, Simon, toi ?
Rien, moi, j'avais pas eu l'occasion.
Mais moi, j'avais dit
non,
Knicks.
J'avais dit que ça irait en 7. Je crois que c'était ça mon pronostic. C'était je me mouille pas, mais ça.
Oui, ça va en 7. Ouais.
Le Normand, quoi.
Ouais. Absolument. Les Knicks sont champions NBA. Cette phrase est réelle. Ça y est, après avoir battu les Spurs à San Antonio, ils menaient 3-1. Il n'y aura pas de comeback du 3-1 lead. C'est une victoire résonante, tonitruante de ces Knicks à San Antonio qui sont allés chercher leur premier titre depuis 1973.
Ouais, non, mais cette équipe, c'est des tueurs.
C'est incroyable.
On l'avait pas vu venir comme ça, mais les mecs, ils ont eu 4 fois l'occasion de finir une série de playoffs dans ces playoffs. 4 fois, ils ont fini.
4 fois.
Il y a pas de deuxième chance, rien du tout. C'est des tueurs.
Absolument.
T'as une balle de match.
T'as une balle de match. Bim, y a ace.
Quand il faut finir une franchise sur ces playoffs du 26, ces Knicks sont historiques. Point d'exclamation sur un run historique. On va reparler de tout parce que ces Knicks font un run absolument légendaire. Déjà, on commence évidemment. Les fans des Knicks, moi, j'applaudis fort pour eux. Profitez de ce moment à fond parce que c'est quand même incroyable. Simon, on en parlait juste au moment où tu es arrivé. C'était une des phrases limite les plus bizarres de toute la culture NBA, que ce soit en France ou dans le monde. Les Knicks sont champions.
Ouais, t'avais un peu dans ce groupe de clubs qu'on croyait maudits. Les Knicks étaient peut-être le plus gros, surtout même le plus gros.
Ouais.
Mais on les rangeait plus dans la famille Clippers, Kings et compagnie que des Bulls et des Celtics ou des Lakers, voire des Spurs.
Parce que ça faisait vraiment longtemps, quoi.
Bah parce qu'ils losent plus qu'autre chose, historiquement, ces dernières années, quand ils sont et puis souvent très près de la dernière marche, justement.
En fait, ça faisait longtemps, plus les quelques fois où on y a cru, à chaque fois, ça s'est terminé en autre boudin.
Avec un sens de la tragédie assez shakespearien.
Et avec des années noires de chez noir. Je veux dire, il faut se rappeler des années 2000 d'Enix.
Mitchell Robinson l'a dit, il a vécu les saisons à 17 victoires.
Ça, c'est les années fin 2010.
Ouais, tout à fait.
Mais moi, je te parle des années 2000 avec Isaiah Thomas. En général manager.
C'était cadeau ça.
Ah là, attention.
À l'époque Eddie Curry.
À l'époque où t'as genre l'une des plus grosses masses salariales de la ligue, mais l'un des pires bilans.
Ouais, Marbury, franchise player.
Ouais, voilà.
Tout à fait. D'ailleurs, je vous montre le visuel parce que, attention, celle-là, elle n'est pas pour Alex, elle est pour Simon et Bibi. Ouais. Mesdames et messieurs, ça y est, les Knicks ont mis fin à leur série. Ça faisait 53 ans qu'ils n'avaient pas de titre. Devinez désormais qui a la bataille pour essayer de remporter un titre.
Mais ça, c'est des équipes qui ont déjà un titre.
Ah, tout à fait.
Ah ouais, parce que moi je suis pas dedans avec mes Suns parce qu'il y a pas
de titre.
Non, mais c'est pour ça, il y a pas encore de bague.
Les Knicks avaient peut-être rien à foutre là en fait. Une vraie malédiction.
Je sais pas, une malédiction. Ouais, peut-être t'as raison Simon, peut-être c'est moi je crois plutôt que il y a un alignement de choses cette saison et notamment là sur ce run de playoff. En régulière, on a vu quelques prémices. Je me souviens d'une vidéo où on commence à dire, je crois que c'est nous deux d'ailleurs, Simon, où on commence à dire ouais, c'est pas inintéressant ce qui se passe offensivement en termes de variété côté Knicks par rapport au Thibodeau et tout machin. Mais là, ça a dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer sur ce run de playoff. C'est complètement fou.
Bah, de toute façon, on va pouvoir revenir sur ce match qui a été remporté hier soir. Avant ça, on replace juste évidemment toutes les infos pour les gens peut-être qui débarquent et qui se disent mais qu'est-ce que ça signifie. Oui, on l'a dit, premier titre en plus de 50 ans. Ces Knicks là mettent un point d'exclamation sur un run de playoff incroyable. On est sur une équipe qui avait remporté la NBA Cup,
La coupe championnat, le doublé disons.
La spéciale.
Je sais pas si on le dit au basket.
On peut dire.
Doublé coupe championnat, dis donc.
On est passé en
comme
janvier.
Comme la JOCR en 96 ou un truc comme ça.
Magnifique.
Magnifique, j'aime bien.
On en a parlé en janvier, Simon. On était quand même passé par une phase, les Knicks en janvier, où il y avait Players Meeting, où on était au bord de la crise.
Oui, il y avait des joueurs qui n'étaient pas en confiance. Je sais plus exactement, mais il y avait une petite série de défaites. Ouais, c'était ça après les fêtes, là, dans l'hiver, au creux de l'hiver.
Okay.
Où il y avait eu cette réunion et il y avait quand même toujours des points, des faiblesses, on va dire, dans l'effectif des Knicks, qui paraissaient même à beaucoup des failles, comment dire, insurmontables pour gagner un titre.
Oui.
Vraiment. Notamment deux, mais c'était Towns et Brunson en défense. Les deux étaient considérés comme trop mauvais défenseurs pour pouvoir, en fait, ne pas être exploités. Ça, c'est le premier verrou, entre guillemets, je trouve, qui a sauté.
Oui.
Moi, j'étais persuadé que ça allait, à un moment ou un autre, ça allait jouer en leur défaveur. Et je trouve quand même la variété offensive. Il y a quelque chose qui a changé, quoi. Dans la manière de jouer.
Et
ça, c'est McMahon. Mais entre ce qu'on voyait cet hiver et tout, même s'il y avait des choses mieux par rapport à Thibodeau, t'avais quand même pas encore là l'attaque des Knicks. quand ils se mettent à jouer et tout. C'était pas ça hein, en janvier.
Non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils ont eu des creux. Ils ont eu des creux et quand on est sorti du All-Star Break, Alex, on a retrouvé un Karl-Anthony Towns qui était bien.
Ouais.
T'en as parlé pendant les playoffs et on s'est dit parfois, on a vécu l'année dernière une espèce d'épopée extraordinaire avec les Pacers qui étaient au bon endroit, en forme au bon moment.
Ouais.
On a eu aussi ce sentiment avec les Knicks où toi et moi, on était à Lille lorsque notamment les Knicks jouent face aux Hawks fin avril et sont menés 2-1.
Ouais.
Il y a eu une bascule à ce moment-là où ces Knicks sont vraiment rentrés dans une espèce de zone et de phase collective où en fait ils ont réalisé un run de playoff mais historique.
En fait, c'est ça qui est très impressionnant dans leur run, c'est que comme n'importe quelle campagne de playoff, tout n'a pas été facile, tout n'a pas été simple et tout, mais l'équipe elle est restée en condition physique. Bon, ok, il y a Robinson qui se fait mal au petit doigt, mais sinon ils sont quand même en condition physique.
Anunobi qui a un petit
qui se fait un petit truc, mais quand tu vois ces finales, tu te dis que ça allait quand même pour jouer.
Revenu,
par rapport à des années précédentes où ils avaient perdu Josh Hart, ils ont perdu Anunobi, Brunson jouait sur une patte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, tu gardes le physique. Ensuite, t'as raison, il y a un déclic contre les Hawks. Il y a un moment où on se fout de la gueule de Brunson et tout, on dit McCollum et tout. Et il faut aussi rendre à César ce qu'appartient aux Knicks, c'est-à-dire que on a beaucoup gueulé sur les équipes adverses. Genre, il faut cibler plus Brunson. Il faut cibler plus Kat et tout. Il va falloir aussi qu'on se dise, à un moment donné, il y a un travail tactique collectif de cette équipe des Knicks, de notamment de Bridges, de Anunobi et de Hart, et même de gars comme Shamet. Ou là, quand tu vois le match de Mitchell Robinson hier, séquences de Mitchell Robinson là sur le Game 5, là c'est n'importe quoi. Ce travail collectif et tactique fait que c'est pas si simple que ça de les cibler. Tu y arrives de temps en temps, mais c'est pas si simple. Ça, c'est juste un premier volet. Et après, il y a le volet mental. Vous me direz ce que vous en pensez. Mentalement,
Mais
c'est quoi cette équipe de tueurs? Ils font des comebacks de fous furieux. Et quand ils ont l'occasion de finir, ils tirent la balle qui tue, quoi.
Ouais, c'est ça.
Waouh! Il y avait un article dans The Ringer, il y a une semaine, mais qui qualifiait les Knicks un peu d'inévitable. Le côté, tu les mènes, mais ils vont toujours revenir et tout. Ça allait jusqu'au bout.
C'est
incroyable. Et le match du titre, c'est encore ce motif-là.
Il y a un comeback.
À croire qu'ils sont là. Tu sais, c'est genre les gens qui. Comment dire? Quand t'as question pour un champion, tu laisses la main.
Ouais.
Et tu veux parce que tu sais que tu vas revenir. Non, mais quand on donne le choix de.
Je voyais pas le choix.
Si,
c'est
pas
ça.
Vas-y, tu vois, tu vas faire. Est-ce que tu veux commencer avec la balle ou tu veux machin? Les mecs commencent par dire menez-nous, on préfère ça. T'as presque l'impression, vas-y, serre et je vais te revenir et je vais te remonter. Et en fait, on aime ça. On aime vous sentir, choke ou quoi, finalement. On aime sentir la pression.
Tout à fait.
Vous serrez de plus en plus comme ça l'adversaire. C'est des chasseurs, quoi.
Il y avait une forme, il y avait une forme de destinée de chasseur avec ces Knicks, tout à fait. T'avais le sentiment qu'il n'y avait aucun obstacle qui allait pouvoir les empêcher de l'emporter. Parce que quand tu regardes sur les séries, moi je me souviens à peine de ce qui s'est passé face aux Sixers parce que ça a été assez expéditif.
T'as un match 2 serré.
Ouais,
tout à fait.
Franchement, les Sixers, c'était la série la plus facile limite pour les Knicks sur ce run.
Tout à fait.
Après les Cavs, c'était un match 1, mais après, par contre, après le match 1,
mais faut le prendre quand même. C'est un comeback
match 1.
Et c'est ce match 1 face aux Cavs.
Oui, pour moi, c'est là.
Qui est un des premiers building blocks où tu te dis vraiment ces gars-là peuvent remporter en toute situation, parce que on avait vu les Knicks énormes offensivement, capables de sortir de cette dominance Brunson. Quand ils sont menés de 22 points dans l'année écartant face aux Cavs, ce comeback, ils se prouvent aussi qu'ils sont capables de faire des trucs, mais qui en fait vont être utiles 3 semaines plus tard. Quand tu es mené de 29 points face aux Spurs, ils se sont prouvés aussi qu'ils étaient capables.
Ils font déjouer l'adversaire. Hier, ça a beaucoup été Brunson, par exemple, mais t'as toujours un mec pour mettre le gros 3 points qui va bien. Là, hier, il y a eu un moment, il y a eu en début de quatrième quart, là, quand ils sont encore à moins 7, moins 10, par là, il y a Josh Hart qui met son 3 points.
Ouais.
Deux actions plus tard, c'est Shamet qui met son 3 points. Il y a aussi ça, quoi, c'est incroyable, parce que là, on a effectivement un closing game de Brunson qui est hallucinant.
Qui est historique.
Qui est historique. Ouais. C'est truc de fou furieux, alors que sur cette série de finale, il a été bon, mais pas des gros pourcentages.
Non, il était maladroit au début.
Et
on parlait même de les deux premiers matchs, on parle de Towns MVP limite.
Ouais, après
et
on parle d'Anunobi.
Voilà,
exactement, tout à fait.
Brunson, pardon, est aussi dans la conversation, mais.
Mais il y a des concurrents, alors que là, avec le dernier match, il n'y a plus de concurrence. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un truc collectif. Anunobi a été exceptionnel là dans ses finales. Towns contre les Cavs, juste il a dominé. Et c'est très important de voir qu'il y a quelques bons matchs de Bridges, Josh Hart qui a été fort au rebond à quasiment tous les matchs. Là sur le Game 5, on a des entrées. Genre même Hugh Porty, il a un impact là.
Ouais,
il a pas beaucoup de minutes. Tu vois. Donc il y a un vrai groupe que Mike Brown, faut vraiment tirer son chapeau avant même Brunson. Il faut tirer son chapeau à Mike Brown, je pense, bah, parce que. Putain.
Bah, j'allais lancer Simon là-dessus quand t'es arrivé, on en a discuté tous les deux. C'est que s'il y en a bien un truc qui est placé pour savoir que Mike Brown, il était à la base, hein, cette photo elle est quand même mythique. Hein, il est quand même il y a quelques mois coach de ces Kings avec De'Aaron Fox.
La déclat qui est ressorti quand il tabasse.
La déclat qui est ressorti. Simon, toi tu me disais, il y a quelque chose d'assez fou, c'est quand tu vois Mike Brown prendre la place de Tom Thibodeau et qui est aujourd'hui champion avec une telle masterclass sur cette
saison.
Dès la première saison, exactement.
C'est clair, c'est
parle-nous
clair.
Un peu de ça. Il y a un côté absolument improbable avec ça aussi, mais il faut lui rendre ses
fleurs.
Bah
ouais, alors c'est pas que de sa faute, parce que quand tu coaches les Kings et que tu t'en fais
Kings,
virer,
ouais.
Bah ouais, que tu t'en fais virer tout ça, t'as un peu une étiquette collée sur toi de. Alors c'est pas même les Kings ont pas voulu toi, mais bon, c'était. Tout le monde était très sceptique sur Mike Brown parce qu'on se disait. Franchement, le schéma pour tout le monde c'était ok, ça va mieux jouer un peu en attaque. Parce qu'il va mettre un peu des principes Warriors et tout. Mais en fait, c'est un loser ce type. Et dans les playoffs et tout, ça va être encore une des raisons qui vont faire plafond de verre pour les Knicks. Moi, je le sentais vraiment comme ça et tout le monde.
Est-ce que se faire virer par les Kings pour un coach, ça pourrait pas devenir un petit talisman de
bah
pas
si,
bonheur
en fait,
regarde Mike Malone.
Mike Malone. Ouais, Mike Malone et les joueurs. Haliburton, en fait,
si ça se passe pour
Kings.
Les meneurs aussi, je veux bien.
T'es
parce
bon,
que c'est bah, incroyable. Alors,
non,
face,
mais ouais.
Non mais
Mike Brown, tu vois, il fait deux. C'est un peu une blague, mais il fait deux des trucs les plus. Il met fin à deux des plus grosses disettes un peu historiques de la ligue. Les Kings qui vont pas en playoff, c'est lui.
Et les Knicks n'arrivent pas à gagner un titre.
Et là, il te light the oui. Knicks, 5ème avenue, etc. Et tout. Je trouve ça fou dans la méta NBA que ce soit Mike Brown. Comment dire? On vous auriez dit il y a 5 ans,
non,
il y a 6 ans,
sûr,
il y a un coach
cru.
Qui va prendre les Knicks. Après Thibodeau,
le nom de Mike Brown,
il
s'est
voilà. Il y a un mec qui va prendre les Knicks et il va faire mieux que Thibodeau. Il va les amener au bout et sur le run de playoff, il va. C'est Midas. Dès qu'il fait
ouais,
un jeu,
bien
de
sûr.
C'est de l'or.
Et Chamet jouera 30 minutes en finale aussi, ouais. Bien sûr.
Et puis il va finir avec un backcourt sur Alvarado. Il va te gagner un match. Ils vont faire des runs. Et qui sera le coach? Mike Brown, il est 29e. Non.
On peut compter là de mémoire les mauvais choix de Mike Brown sur ce run de playoff. On peut les compter. Il y en a pas beaucoup.
Non.
Des mauvais choix là où on se dit qu'est-ce qu'il a foutu ou quoi. Non, il y en a quasiment pas. C'est un truc de malade.
Bah, la gestion,
c'est un run de playoff de malade.
La gestion de ce groupe aura été énorme du début à la fin. Ils ont d'ailleurs les joueurs beaucoup rendu hommage à Mike Brown sur le côté vraiment
normal.
On se sent vraiment mis en confiance. Et puis bah on va basculer aussi sur le match parce que c'est évidemment je vous montre les scènes de liesse, mais c'est aussi quelque chose qui s'est ressenti sur
voir la cinquième
sur le match. Je vous montre juste les premières scènes de liesse qu'on a vues où tout le monde était dans la rue en
la
train de chanter évidemment.
C'est jeudi la parade.
Toutes les chansons évidemment, Jay-Z, Alicia Keys, du Nas dans tous les sens, du Wu-Tang on l'avait vu il y a quelques jours. Ce jeudi, préparez-vous,
incroyable.
C'est la parade des Knicks dans quelques jours. On voit les Knicks d'ailleurs qui ont célébré gentiment le titre dans leur vestiaire. On avait Timothée Chalamet avec James Brunson juste ici, évidemment. C'était incroyable, c'est pour ça qu'on a sorti les goggles. Ces images, elles sont réelles, hein. C'est pas de l'IA. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça hier soir en direct, je me disais, mais attends, on dirait, tu sais, des trucs de test d'IA en mode oui, bien, regarde cette
image. Clarkson, champion avec les Knicks.
Clarkson, avec la stade premier philippin, champion de l'histoire.
Dans la matrice, quoi.
Exactement.
Premier philippin champion de l'histoire.
Mais c'était soit lui, soit Dylan Harper.
Alvarado.
Et Porto Rico, si j'ai pas de bêtises. 4 République Dominicaine. Donc il y a un côté aussi très
international.
Très international et très Knicks. Hein,
très
New York.
Très j'avoue qu'il faut leur laisser ça. C'est ce qu'on disait aussi. Tu vois, ils ont pas gagné avec un big three. Pareil, on te dit les Knicks gagnent là de notre présent. Moi j'aurais toujours pensé que c'était un coup à ok, ils ont fait venir LeBron Wade à l'époque à la place de Miami ou je sais pas quoi, pas avec Towns, prendre un deuxième tour de draft, prendre Sun, pas comme ça.
Et surtout,
c'est fou.
Je veux dire, là je reviens à Mike Brown. Faut ok, le mec, on vient de parler de Clarkson et d'Alvarado, mais sinon, il a transformé le groupe de l'année dernière. Ouais. Il n'a pas eu. C'est pas Towns, il est arrivé cette année et ça change tout ou quoi. Il y avait le même 5 majeur.
Il a changé la façon d'utiliser Towns.
Non, mais il a changé le groupe, mais lui a pas vraiment. On lui a filé Clarkson et Alvarado. Ok, d'accord, c'est des bons moves. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le 5 majeur de l'année dernière, c'est le même.
Et c'est même depuis 3-4 ans, c'est l'intersaison où les Knicks ont fait le moins de moves. Parce qu'il y a toujours eu un gros mouvement, Towns, Randle.
Le move, c'est Mike Brown.
Le move,
c'était
un changement de coach.
Alors, oui, c'est vrai. Et pour autant,
c'est fou,
on oublie, c'est pour lui évidemment, mais on oublie qu'un des moves qu'on attendait le plus, c'était Gershon Yabusele. On l'a oublié complètement.
Là,
mais quand il était qui arrivait, Alex, on a dit il fallait de l'aide sur le banc. Il y a Gershon et Clarkson qui arrivaient. Et on avait dit pendant l'été, bon move de la part de Leon Rose. Et pour autant, quand Mike Brown a dit justement, je vais croire en une telle rotation, je pense qu'il y a des choses à faire. Il a cru en ce groupe et tout à fait, il a transformé l'utilisation des joueurs.
Clairement, Mike Brown, il est arrivé après Yabusele. Mike Brown n'avait pas vraiment de plan avec Yabusele, il ne collait pas à son plan de jeu. Et malheureusement pour notre capitaine de l'équipe de France, qu'est-ce que tu veux dire? Le mec, il avait un autre plan de jeu et son plan de jeu, il amène la bague. Alors, tu peux rien dire, c'est tout.
Tout lui donne raison là.
Tu vois, genre là, tu peux rien faire. Donc effectivement, mais moi, je trouve que c'est vraiment, faut vraiment le dire, vraiment très fort. Il a pas eu de gros renforts, sans faire offense à Gershon Yabusele, à Clarkson ou à comment il s'appelle maintenant, Alvarado. Là vraiment, il a pris un groupe quasi similaire. Et il l'a fait jouer autrement, il lui a donné une autre mentalité. Et lui, après, en cours de match, il a été bon. Il a été bon.
Simon, t'allais ajouter ?
Ben non, mais dans tous ces trucs, parce qu'on le voit, c'est une accumulation de faits assez fous. Que Towns soit solide, que Mike Brown soit un coach champion NBA avec New York. C'est quoi l'élément pour vous le plus frappadingue dans tout ce qu'on pourrait énumérer dans ce titre des Knicks ?
Ah, y en a
c'est
plein.
Qu'Anunobi soit le meilleur roleplayer de l'histoire. C'est quoi le.
Attends,
il y en a plein.
Là, s'il se comporte plus comme un lieutenant qu'un roleplayer.
Bah, c'est le Michael Jordan des roleplayers. Je sais pas comment dire, mais c'est quasiment Edu Sukawai, ouais. Quoi. Il est entre.
En fait, il est entre Kawhi et Pippen. Hein.
Ouais, c'est.
En fait, c'est enfin, marrant. Dans ce...
Mais c'est quoi pour vous le.
On en parlait pareil que justement où t'es arrivé. Moi, on a beaucoup. Ce titre, je trouve, nous apprend aussi à rester humble en tant qu'observateur NBA et ouvert d'esprit par rapport à des sacro-saintes règles qui ont été aussi détruites. Tu disais, les Knicks ont pensé que ça allait être de la grosse intégration de superstars, un big three.
Bah, s'ils gagnaient,
très...
quoi.
S'ils gagnaient, ça allait être comme ça. C'est une équipe qui n'a pas développé de joueurs draftés. Ils ont développé des joueurs évidemment en leur sein. Hein. On a vu tout ce qui s'est passé avec les joueurs. Mais
c'est que des acquisitions.
Moi, tu m'aurais dit, là, parce que je vais quand même, pareil, tu parlais de Mike Brown. Moi, il y a un mec qui va peut-être pas avoir une statue, mais il va avoir un sacré paquet de respect. Leon Rose, ce qu'il fait depuis quoi ? Ça fait 6 ans qu'il est là. Ça, pour moi,
lui aussi fait des bons choix.
C'est extraordinaire.
Bah, c'est lui, la tête de la pyramide.
C'est l'architecte. Là, tu l'as écrit, c'est l'architecte.
Tous les choix signé Brunson, c'était incroyable. La réduction aussi volontaire de Brunson sur sa négociation de contrat. Le transfert de 4 pour Julius Randle, c'était culotté.
Ouais,
Bridges et Anunoby. On a vu Josh Hart.
Anunoby, il y a plein de gens qui disaient que c'était trop payé de filer et Quickly et RJ Barrett. Et d'ailleurs, on se demandait,
Bridges, il y a quoi ? Il y a 4 picks.
Il y a 4 picks pour Michael Bridges. Landry Shamet, il a été signé au minimum. Alvarado à la deadline. Mike Brown, Thibodeau. En fait, moi, j'avoue.
Josh Hart aussi.
Le trade de Josh Hart. Moi, j'avoue, ce qui me choque le plus, c'est un span de 5-6 ans où les choix des Knicks sont bons. Ça n'existe pas de notre vivant. Normalement, chez les Knicks, il y a toujours un choix de merde quelque part.
Là où tu as raison, c'est le truc le plus fondamental, c'est Leon Rose qui inverse le sens du courant. Moi, je trouve quand même, parce que ce titre des Knicks me donne tort, c'est pas le. C'est le truc qui me surprend le plus depuis que je suis à l'NBA, je pense. Que ces Knicks l'aient gagné avec le Dallas Nowitzki. Je pense
2011.
Vraiment c'est le titre.
Dallas 2011, c'était quand même une dingue.
Ouais, mais tu sais que ça, en fait, avec le recul, on va s'en rendre compte. L'équipe championne où je me dis, là, plus tard, putain, ils peuvent vraiment être champions. Là, je me le dis en finale de conf, genre, putain.
On se dit au game 5, là. limite, c'est ta merde, ils peuvent le faire.
Bah, limite, non, mais c'est le slogan avec Brunson. Mais en fait, Brunson est meilleur que tout le monde. Enfin, t'es toujours meilleur que Brunson jusqu'à ce que tu joues contre lui. Il y avait un truc comme ça que c'est Knicks. Et je parlais de Brunson. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est que Brunson, vraiment, soit le leader. On parlait notamment, tu sais, de la phrase de Pokémon. Que Brunson soit devenu ce joueur-là.
Là, attends.
Déjà, moi, je trouve que c'est l'élément le plus fou.
C'est l'élément le plus fou parce que il faut bien comprendre que si les Knicks sont champions, c'est parce que, justement, tu as reparlé de la réduction de salaire. Bon, ça peut paraître anecdotique, ça permet quand même certains moves.
C'est énorme.
Ça donne de la souplesse.
Oui, parce que c'est très conséquent.
Ensuite, le mec voulait être à New York. Son père a joué pour les Knicks, son père est dans le staff et tout. Il y a un truc new-yorkais, tu vois, en Brunson. En mode capitaine, on oublie dans le basket que c'est pas comme dans le foot. Là, on a une Coupe du Monde qui vient de. On fait moins gaffe au côté capitaine.
Ouais,
on parle de franchise player et tout. Mais en termes de je lâche jamais rien. J'ai du courage, du cœur et je suis clutch et quoi qu'il arrive je m'énerve pas. En conférence de presse quand on me demande à 3-1 ce qu'il faut faire, on va jouer comme s'il y avait 0-0, tout ça là, toute cette espèce de truc, moi je suis persuadé que ça bonifie et Bridges et Kat et Anunobi, et tu sais quoi, ça bonifie même le travail de Brown, que Brown, il y a un moment donné où là dans le game 5 quand ils sont à moins 15 dans le troisième quart, ou oui c'est ça, il y a moins 15 je crois dans le troisième quart,
15,
encore
16,
ça pue, hein, il reste de 3 minutes ou un truc comme ça, c'est Brunson qui ramène les types en mettant des gros 3, en allant chercher des lancers, en contournant toute la défense pour déposer des layups de ouf. Le mec, genre je voyais des débats, ouais, on le met où dans l'histoire d'Enix et tout. C'est on vrai. Le met très, arrive, très, très, arrive, très, très haut. Très, 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 très haut. Bah, c'est un truc de gueudin ce qu'il vient de faire. C'est mais
ça.
Vraiment.
Ça ouais. me permet de faire transition là-dessus faut, parce qu'on va se poser la.
Faut se rendre compte.
On va se poser la question avant de revenir en détail sur ce qui s'est passé sur ce match 5 parce qu'évidemment, il y a des illusions à San Antonio. Mais quitte à ce que maintenant, puisque Alex tend la perche, on fasse la transition là-dessus.
Sûr.
Aujourd'hui, à chaud là. Pour ceux qui ont connu les Knicks des années 90, pour ceux qui ont porté ce t-shirt, etc. on a un côté préhistoire intouchable avec Walt Frazier et Willis Reed.
Oui, intouchable, moi, intouchable.
On en parlait juste avec Simon sur le côté. Il y a quelque chose d'assez mythique avec ces Knicks des années 70 qui ne pourra pas être tant
c'est
touché.
Ça. Il y a quand même un mythe autour du Garden dans les années 70.
Ils en ont gagné deux en plus.
Ils en ont gagné deux.
Mine de rien. En 3 ans.
C'est quand même presque un phénomène de la pop culture. Je trouve la culture Knicks et tout est autour de cette équipe au départ. Et pour moi, ils resteront toujours dans le panthéon des Knicks, je pense.
Ouais, mais alors là,
mais tu peux les dépasser. Non, mais tu peux les dépasser.
Tu dis ça par
mais
rapport à quoi, Simon? Je veux dire, c'est parce que je veux comprendre. Parce
c'est le Mont Rushmore, en fait. On l'a fait ensemble avant que tu arrives. C'était si tu fais un Mont Rushmore des Knicks, t'as deux places. T'as Willis Reed et t'as Walt Frazier qui sont là.
Et
t'as Brunson et Ewing.
Voilà.
Mais ils sont en fait dans l'ère moderne. T'as l'impression que Brunson, juste en étant vivant, va dépasser Ewing.
C'est ça. Moi, je les mets de côté. Je trouve que c'est un peu l'ancien air, on va dire, oui, des Reed
mais
et ouais.
Frazier. Bien sûr, non, mais c'est.
Et il y a un match aujourd'hui, Ewing Brunson, pour savoir qui.
Ah bah là, il a fait un truc que Ewing aurait rêvé de faire.
Il y a une discussion, quoi. Ça y est.
Mais en fait, Ewing, le truc, c'est que quand il a eu l'occasion. Oui. Pardon, hein, j'adore. Hein, c'est Patrick, c'est New York. Hein. Mais quand il a eu l'occasion, lui, de claquer, d'aller chercher la bague, il était soit blessé, soit il a choke. Ouais. Soit il a raté le petit shoot, le petit machin. Désolé, là, on a un type d'1m86,
oula.
8. Ouais. Vite fait, il fait ta taille, Simon, à tout péter. Hein. Maximum. Hein. Il est plus petit que Curry.
Je pense qu'il est. Ouais,
Curry,
il est
Curry. Un de toi.
Oh non, plus. Non. Ah, je pense tu fais combien, toi, Simon, toi 1m86, 8
Non, 90 quand même.
90, toi.
Ouais, 89.
Okay. Il est plus petit que toi, je pense.
Ouais, je pense qu'il est entre. Là, t'as raison. Il est entre le 80 et le 85.
Hein. Ouais, il doit faire 1m85.
Il est plus proche du 85.
Et quand tu le vois arriver sur le terrain, t'as l'impression qu'il va bouger moins vite que moi. Ah, pardon.
Des gens qui arrivent là.
C'est un truc de fou.
Des gens qui arrivent là et qui disent faites-lui une statue, c'est le plus grand joueur des Knicks de tous les temps. Au-delà de l'aspect purement titre, bague, palmarès, etc., entre le move financier, comme l'a dit Alex, la volonté de vouloir venir à New York et de claquer 30 points de moyenne en finale NBA pour sa première finale avec un elimination game à 45 points.
Alors que l'année dernière, ça s'est mal passé en finale de conf.
On parle de Leon Rose, on parle de Mike Brown et tout. Mais le héros de l'histoire, et je pense qu'il y a vraiment des caractéristiques du héros. Il est petit, on ne mise pas sur lui. Enfin, tu vois, dans les shonen et tout, Jalen Brunson, c'est vraiment un héros. Et aujourd'hui, c'est peut-être même un plus grand héros que Patrick Ewing parce que justement lui il a réussi quoi. Il a amené le truc jusqu'au bout de l'histoire. Ouais. Ensuite en termes de joueurs on verra. S'il reste au Knicks il aura et la bague et sans doute la longévité en termes de points, de minutes disputées, de trucs. Et si ça se trouve c'est Knicks on va voir mais peut-être qu'il retourne en finale. Enfin on ne sait pas.
Ils sont déjà allés en finale de conf l'année dernière. Voilà. Là ils sont sur deux années de suite.
Ce qui est sûr
haute,
aujourd'hui c'est que dans la légende des Knicks hein, d'abord on verra pour l'NBA mais c'est un héros un peu comme il y a un côté moi je trouve très comparable à Nowitzki. Je prends un peu moins de thunes, je reste, je fais ciment autour de tout le monde,
autour,
je suis un leader par l'exemple.
Autour de lui,
il y a une vibe qui fait. Ouais. Ah, c'est pas
d'accord.
Du tout le même joueur, évidemment, mais. Et les autres croient en toi. Et un héros, finalement, assez humain, parce qu'on n'y croit pas trop au début, parce qu'il a plutôt un peu. Quelque chose de très commun.
Excusez-moi, je me suis gouré de boutons. Pardon.
Tout va bien.
Non, mais vous avez compris.
Les Knicks sont champions.
Vous avez compris l'idée, je pense. Brunson est vraiment. Il y a quelque chose d'admirable et d'héroïque dans
ouais, tout
son parcours.
Ah, mais complètement.
J'aime bien la compa dire qu'il y a un côté un peu. Ça change l'image de Brunson aussi par rapport à ce qu'il était.
Mais je suis complètement d'accord. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment le côté. Je veux dire. Au début de la saison, on a fait un top 10 des joueurs américains. On a foutu Brunson vite fait dans le top 7-10. Bastien et moi, actuel. Il y a l'année dernière, on avait fait un top 10 des meneurs actuels. Bon, je m'étais fait beaucoup attaquer. Ce que j'avais mis, te rappelles, j'avais mis Brunson devant Curry,
non, ça allait pas
parce que je disais Curry était vieux. Aujourd'hui, ça se discute très fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pour revenir à posteriori, c'est plus pour dire, genre, au début même de ces playoffs, Jalen Brunson n'était pas forcément une évidence en mode, c'est un patron qui va au titre.
Non.
Maintenant, on est là, on dit ouais, c'est un héros, c'est un capitaine, parce qu'il vient de faire le truc de leader absolu. Ouais. Mais au début de ses playoffs, s'il avait fallu qu'on se retrouve tous les trois sur le canapé et qu'on dise ok, vas-y, c'est qui les mecs que tu prends en premier là pour aller au bout, et on aurait tous dit Luka en forme, quand même Jokic, et Anthony Edwards, et tu vois, et Wemby. Enfin, on aurait peut-être même pas mis Brunson dans nos top 5,
oui.
les gars.
Il aurait été à la porte. Quoi.
Surtout que les Knicks sortaient d'une régulière un peu chelou en termes de nombre de wins et tout. Et donc, ce qui est fou, je trouve, c'est parce qu'on. Nous, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on se rend pas compte. Et je pense qu'il y a des images qui ont été tournées et on aura un truc de un équivalent de When the Garden Was
Eden.
C'est
mythique,
il
y a trop de trucs.
When the Garden Was. Et je pense qu'on va se rendre compte du côté un peu leader calme. Moi, Brunson, par certains aspects de sa personnalité, qui est pas, il est pas là pour briller. Il est pas là. Donc il y a Dirk et il y a aussi un petit côté un peu. C'est pas le même niveau. Attention, hein, voilà. Mais tu sais, à la Duncan, ou ce genre de gars. Ou Curry, il shine quand même plus
dans son jeu, mais c'est un leader calme.
Oui,
Steph.
Ouais, mais il sourit plus. Brunson, il y a un côté effectivement toujours
sérieux.
Il y a un côté
taiseux.
Il y a un peu taiseux. Même là, la célébration, il retient un peu ses émotions. Il cache un peu ses émotions.
Oui.
Il est gêné.
Curry, il est un peu plus dans les réseaux sociaux. Avec en plus, il y a sa femme et tout, les enfants. On connaît les enfants de Curry et tout, tu vois. Genre, ce que je veux dire,
c'est plus Moses Malone et Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan que Curry et Jordan.
C'est plus naturellement une star. Je trouve qu'il est plus à l'aise là-dedans. Ouais. Il est plus à l'aise.
Bah déjà, c'est un, voilà.
Brunson, tu sens qu'il n'est pas si à l'aise.
Mais Bassin et Pator, ils sont tous les deux fils de joueurs qui ont fait des carrières. Bon, Dell, Curry, il a fait une meilleure carrière que le père de Brunson. Mais c'était pas des superstars et tout. Donc il y a un côté professionnalisme, régularité. Et là, je trouve que tout a cliqué pour Brunson. Et ça fait plaisir pour ce genre de joueur. C'est-à-dire que ça a cliqué. Lui, ça a cliqué quand il fallait. Je veux dire, son Game 5, on va en reparler. Mais il a mis 45 points pour finir des finales NBA avec les Knicks.
À l'extérieur,
c'est nimp. Mais en plus, autour de lui, ça a cliqué de fou. Voilà. Anunobi fait des finales incroyables. Et puis là, les rotations de pivot, moi, ça m'a choqué. Hein. Robinson et Hugues Porty, quand Carl Anthony Towns n'a pas joué beaucoup de minutes quand
non,
on arrive en quatrième quart, problème de faute et tout.
Hugues Porty, globalement, pas bon.
Hugues Porty qui va faire un close-out d'In the Wemby sur Cornette, là, vous voyez, sur le alley-oop. Et les rebonds offensifs, même le dernier rebond offensif de Mitchell Robinson. Franchement, ça a cliqué autour de lui et ça fait plaisir.
Sur le Game 5,
oui.
Sur lequel on peut revenir parce qu'évidemment, on fait un passage rapide.
Pardon, je suis un peu excité, je suis content.
Ah non, mais évidemment, tu m'étonnes. On a les Knicks champions NBA. Sur ce match, au moment où on le démarre, il y a 3-1 pour les Knicks. Il y a une sorte de confiance qu'on peut comprendre côté Spurs parce que les stats sont assez claires. Sur la série, ils mènent 70% du temps. Que si tu te pose juste sur la fin de match du Game 4, il y a plein de what if qui ressortent.
C'est dur pour les Spurs hein, de prendre
4. C'est très dur parce que tu te dis le score final de la série est terrible.
Là,
Kenny
Atkinson, on pense à toi, Analytically.
Je suis d'accord, mais il y a un petit côté méthode. Les Spurs étaient, en fait, et c'est comme ça, c'est ce qui va rester comme impression sur la finale, t'as vraiment le côté, les Spurs font tout bien, tout un moment, et non mais je veux dire, sont devant à tous les matchs, font des bons débuts de match, tout ça et tout, mais à chaque fois, c'est le même schéma qui se répète. De laisser filer ou de d'être passif et de se faire remonter. Et je trouve que les Spurs, là, quand ils disent à 3-1, on peut le refaire. C'est vrai, tu te dis, on n'est pas loin, il pourrait y avoir 3-1 dans la série pour nous, il pourrait y avoir. Et en même temps, ce match l'a encore prouvé et tout. Bah non, parce qu'ils savent pas gagner des matchs en finale. Ils ont su gagner des matchs à tous les niveaux.
Et mais je suis d'accord
avec toi. Mais en finale, ils savent pas gagner des matchs. Cette année, en tout cas.
T'es d'accord, Simon, quand même, que c'est fou parce que ils étaient menés 3-2 par le Thunder.
Ouais.
Ils sont allés prendre, ils ont pris le Game 6 chez eux et ils sont allés prendre le 7 à Oklahoma City.
Une sorte d'exploit.
Un exploit où il leur a fallu du mental, il leur a fallu de la capacité à finir et tout.
Et qui nous a tous trompés, qui nous a dit ok, vu ce qu'ils ont fait à Oklahoma, il n'y a pas de raison dans les clutches, dans les trucs et tout.
Alors,
et là, ça les a rattrapés.
Et il faut aussi prendre ça pour encore plus rendre hommage aux Knicks, c'est-à-dire que les Knicks ont réussi à tuer ça à l'intérieur des Spurs.
Genre,
ils ont vraiment réussi à en faire leur petit.
Ouais, bien sûr, l'approche globale de la série a été très bonne.
Hier, ça
s'est confirmé.
Quand
ça
repasse, on va dire, sous les moins 10, là, à moins une que
c'est terrible.
Tu le vois dans le body language des Spurs, de genre, c'est déjà comme s'ils avaient égalisé, en fait.
Incroyable.
Parce que comme ils leur ont fait tout le temps le coup, on en revient à ce mot inévitable, t'es là en mode bah à moins 10, en fait c'est bon, ils ont déjà recollé mentalement pour l'équipe adverse.
Tu sais qu'ils arrivent. C'est marrant parce que sur ce Game 5, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, hein, si vous avez accès au replay, allez-y, mais alors attention.
Spoiler, les Knicks ont gagné.
Alors tout à fait, préparez-vous aussi à la gueule de la première mi-temps parce que dans le premier quart, les Spurs, on prend les mêmes et on recommence.
Super premier quart.
Défensivement.
Mais j'avais l'impression de voir le même match.
Ils sont énormes. Et les Spurs refont la même, ils mènent de 10 points. Et on y va, 23 à 13.
Défense sérieuse.
Non mais Wemby incroyable en défense. Harper, meilleur joueur en demi-terrain offensif.
Meilleur joueur des Spurs sur ce Game 5, Harper.
Offensivement, c'est vrai.
Les Spurs ont ce lead. Sur le deuxième quart, au début, les Spurs gardent ce lead. Ça monte même jusqu'à 15. Ouais. Mais on met tous. Moi, j'étais en train de tweeter à 3h du mat et je me disais, tout le monde s'attend à une chose, c'est si ces Spurs-là continuent à m'attaquer, les Knicks ont une confiance absolue en leur capacité à juste rester dans le score. Parce que ces Knicks savent une chose, c'est que si dans le quatrième quart, il y a moins 4 avec 5 minutes à jouer, c'est terminé.
Ah non, mais c'est tu terminé. As raison, c'est terrible.
Et
c'est
ils l'ont fait encore parce qu'à la mi-temps, les Knicks, alors qu'ils shootent d'une manière désastreuse, ils sont à combien
5. 5 ou 6.
Ils sont à 6 points des Spurs en faisant une mi-temps à
42-37. 5 points.
5 points, tu vois. Ouais.
Bienvenue
c'est
en 2004.
C'est après que ça monte.
Là où je
dis
que c'est tout le temps le même match, c'est-à-dire que si la finale l'a continué, j'ai l'impression qu'on verrait toujours genre, bah, les Spurs entament bien, ils sont devant, sauf qu'ils savent pas gagner un lead, et sauf que les Knicks les rattrapent et vont les baiser. Bah, pardon, regarde, mais t'as l'impression que ça va se répéter ad vitam aeternam entre
ça,
ces deux équipes.
Je mets le visuel exactement, Simon. 14 points lead au Game 1, 12 au Game 2,
c'est incroyable.
12 au Game 3, le seul qui gagne, 29 au Game 4 et 16 points au Game 5. Ces Spurs ont vraiment remporté quoi 14 des 20 cartons de ces finales et ont perdu 4-1. C'est numérique. Terrible.
Et il y a quelque chose là-dedans dans le jeu des Knicks qui est vraiment là sur le Brunson Brown, je dirais, tu vois, le coach avec son leader. Ouais. C'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le score, quel que soit le niveau de réussite au tir, cette équipe continue à faire bouger la balle, à exécuter, et on force pas sur Brunson forcément, et on lui cherche les bons espaces. Et tu sais quoi ? Si c'est Josh Hart qui est ouvert en fin de possession et qui doit prendre le tir, il va prendre le tir, et on continue à tabasser le rebond offensif. En gros, ils ont à aucun moment ils ont lâché leur principe de jeu. Et ça c'est assez fort quel que soit le score du match. Là ça a tellement bien cliqué et ça a tellement bien marché que c'en est presque indécent, parce que en toute honnêteté 4-1, les Spurs qui prennent 4-1, c'est dur.
Non, c'est une violence.
C'est vraiment dur parce qu'il y a vraiment des comebacks. Ils ont vraiment proposé du vrai bon jeu par de nombreuses séquences.
Oui.
Et oui, ils n'ont pas été foutus de finir. Donc, ça, sanction immédiate. En fait. Mais il n'y a pas un écart de 4-1 entre ces deux équipes pour moi. En termes de jeu et tout.
Je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a trop de fois le même motif de devant, on ne sait pas finir. Et finalement, quand il y a une fois, deux fois, trois fois le même truc, tu te dis le 4-1, c'est peut-être pas pour rien.
Ça a plus une gueule de gentleman sweep que de série serrée. Tu te rapproches plus d'une série où en fait tu peux. Non, mais quand je dis gentleman sweep, c'est pas dans le sens on vous a balayé 4 fois en 5 matchs, merci, au revoir, mais plus en. C'était pas la bonne formule, mais tu sais, ces séries, Alex, dont on a parlé, où parfois tu as un 4-0, mais qui est terrible parce que les 4 matchs ont été serrés.
Oui.
Là, on a une finale. C'est quand la dernière fois qu'on a une finale où les 5 matchs sont serrés ?
S'ils étaient serrés, je sais pas.
La dernière fois qu'on a eu une finale longtemps. Où il n'y a aucune branlée.
Je suis d'accord avec vous, les matchs sont serrés tout le temps.
Il n'y a pas de blowout,
mais dans tous les clutches, les clutches sont tellement bien pour les Knicks, mauvais pour les Spurs. Faudra revoir. Tu fais une compile de toutes les fins de les Spurs là. Les avances qu'ils laissent, les clutches.
Simon, parce que là,
j'ai rarement vu une équipe se chier dessus comme ça.
Ouais, ils se sont chier dessus, ils ont fait des chocs de ouf. Par contre, là, avant le Game 5, ok. On sait que les Knicks sont dangereux et tout, c'est à San Antonio. Mm-hmm. On est tous en train de se dire ils peuvent prendre ce Game 5, les Spurs.
Envisageable. C'est comme tous les matchs sont serrés, c'est ça.
On n'est pas en mode genre franchement les Knicks là ils vont finir et les Spurs on espère pour eux qu'ils vont en gratter encore un. Tu vois, non, on est plutôt en mode quand même franchement s'ils continuent à défendre comme ça, ils sont capables, faut qu'ils finissent.
Ils ont les éléments.
C'est dans ce sens-là que je veux dire
super d'accord.
Tu vois par exemple les Knicks ont tabassé les Sixers et après ce Game 1, ils ont complètement tabassé les Cavs qui avaient lâché mentalement et qui avaient beaucoup moins d'armes. Deux équipes qui ont beaucoup moins d'armes que les Spurs. Les Spurs avaient des sacrées armes.
Oui.
Harper fait des vraies finales. Castle pour défendre en premier rideau sur du Brunson et tout, c'est quand même vachement intéressant.
Oui.
Wemby dans la raquette, tu vois ce que je veux dire, genre.
Des
vraies armes en
les
fait.
Les Spurs plus que les Sixers, les Cavs, même les Hawks peuvent se dire on aurait pu les éliminer. Ça c'est vrai.
Ou au moins en prendre plus qu'un quoi.
Et hier avant le match, moi je suis le premier à penser genre les uns après les autres, vu que les matchs sont serrés, si les Spurs font un peu moins les cons en fin de match, que Wemby arrive moins dans le rouge dans le quatrième carton et que Fox met un ou deux shoots, en fait tu prends le 5, tu peux prendre le 6, peut-être, parce qu'au Madison t'as prouvé que. Et le 7, on verra bien, la finale est encore en jeu. Mais tu vois, pendant le match, et surtout hier, le quatrième carton, j'ai changé David Jameson qui a inlassablement Fox en quatrième carton, ça va pas le faire. Wemby, il va arriver cramé, ils ont pas de poste 4, ils ont des problèmes, les Spurs, qui se sont répétés inexorablement.
Le poste 4, on va en parler, ça c'est
à
sûr.
À chaque match.
Ouais, tout à fait. On en parlait tout à fait juste avant de démarrer la mission. On se demandait, Alex, avec Simon, quelles sont les finales comparables où on a le sentiment que des jeunes apprennent une leçon à la dure, comme ça en antenne nationale, sur une finale NBA, où c'est la deuxième équipe de finale la plus jeune de l'histoire. Moi, je disais à Simon, même si le niveau d'expérience est différent, ça m'a rappelé comment Boston s'était fait vraiment malmener par Golden State.
Moi, ça me fait plus penser au Thunder 2012, moi.
Et au Thunder 2012 face à Miami.
Ça me fait penser à Orlando aussi. Quand,
en 95.
Ah oui, Shaq et Penny.
La fameuse phrase, parce que je trouve qu'on peut dire un peu ça des Spurs, faut gagner maintenant avant qu'ils aient compris comment gagner. Oui. Tu sais, Houston dit, faut qu'on gagne avant qu'Orlando ait compris comment gagner.
Toutes ces équipes, à part les Celtics, on parle Bastien, ces équipes, ça se fait, il n'y aura pas de titre en fait derrière. Donc on va en reparler pour les Spurs.
C'est pour ça que Boston, quand ils ont, on en parlait tous les deux, démarré très tôt avec Tatum et Brown en finale de conférence, on a dit pendant des années. Est-ce qu'ils vont passer le cap? Parce qu'on leur a promis la gloire, les Celtics, dès leur première finale de conférence avec John Tatum et Brown.
Ça a mis du temps.
Il a fallu 6 ans.
Il a fallu perdre,
il a fallu des gros choix. Donc c'est difficile d'aller à un tel niveau.
Moi,
attention.
Ça m'évoque un peu, mais pour des motifs un poil différents. Mais LeBron, quand il va en finale en 2007 avec les Cavs aussi.
Ah, ils se font
ce côté, non, mais sur le côté, j'ai rien à faire en finale, mais en fait, je suis tellement fort. Il y a un petit
il
truc
est un
avec
peu plus seul, LeBron. Là, il y a une équipe. Hein. Là, il y a un Big Three. Hein.
Oui, il est un peu plus seul, mais le côté, on arrive en finale trop tôt. Tu sais, enfin, on arrive en avance et du coup, on déçoit en finale.
Il est
parce
en
que...
finale avec Lucius Harris, Ilgauskas et Mo Williams.
Et je pense, hein. Je pense que c'est ça. Alors, mais oui, en effet, il y a
comme
plus,
ça.
Il y a pas mal d'exemples. Dites-nous, vous, ce que vous avez.
Pour moi, c'est Thunder 2012. Il y a un Big Three de ouf avec un niveau potentiel incroyable, un MVP, des MVP labels.
Ouais.
Tu vois, et.
C'est le plus proche.
Je trouve.
C'est le peut-être.
Ouais, moi, ça m'a fait penser, je t'ai dit, mais c'est encore une fois, les expériences sont très différentes à ces Celtics qui mènent aussi.
Ça se compare à Orlando. Il y a une vibe Orlando.
Et en fait, moi j'avoue, quand on a vu la suite de cette série, vous en parliez très bien tous les deux tout à l'heure, c'est qu'au moment où les Spurs sont menés 3-1 par le Thunder, 3-2 par le Thunder, égalisent et gagnent le set à l'extérieur, on a complètement balancé par la fenêtre tout argument de type inexpérience, parce que déjà les Spurs montrent qu'ils sont capables de faire des dingueries, et qu'en plus, c'est pas comme si New York avait dans son effectif 4 mecs qui avaient remporté la bague.
Non, mais
c'est
par contre,
quand même des mecs qui ont quand même aussi fait leur preuve pendant cette série-là.
Oui, c'était leur première finale, à part Mikal Bridges.
C'est ça. Et Mike Brown avait eu des expériences avec Golden State et avec Cleveland, évidemment, en tant que coach.
Après c'est des joueurs qui avaient plus de vécu en play-off.
Voilà. Ouais, puis ils avaient la finale de conf contre Indiana l'an dernier.
Ils étaient allés en finale de conf l'année dernière.
Brunson et Towns, tu sens qu'ils l'avaient encore là.
Je fais une toute petite parenthèse avant de passer sur nos amis les Spurs, dont on va parler évidemment en long parce qu'il y a de la déception. T'es comment si t'es le Thunder et que tu vois cette finale?
Je sais pas, je suis focus sur moi-même.
Oui.
Je pense que le Thunder n'a pas à se soucier. Enfin, ils doivent se soucier de la concurrence. Tout le monde doit se soucier de la concurrence, mais ils doivent d'abord. Ils ont leur questionnement. On a vu Sam Presti monter au créneau pour défendre Shai Gilgeous-Alexander. Ils ont un questionnement. On en a parlé et tout.
Dort, entre
Hartenstein, Dort. Qu'est-ce que tu fais des contrats? Est-ce que tu payes Kesson Wallace ou comment ça bricole et tout? On a vu plein de rumeurs autour de Chet Holmgren. Moi, je crois pas du tout qu'ils vont trader Chet Holmgren cet été. Mais tu vois, pour moi, t'es plus focus sur toi-même et en réflexion de genre on run it back comme on dit pour avec peut-être quelques petites modifs dans la rotation de l'effectif, mais en gros ton but c'est de, tu sais que t'es fort quoi, tu vas encore être fort l'année prochaine.
Je posais la question tout à fait Alex, je posais la question parce que Simon, il y avait un côté évidemment tu peux avoir un peu de regret.
Ah moi j'ai un peu le seum.
Ouais, t'as quand même un peu de regret,
c'était
le ton.
Moi j'ai le seum.
Ah pardon, c'était dans ce sens-là.
Moi j'ai l'impression, je vais le dire comme je suis, hein. Je suis un membre de l'effectif ou du staff du Thunder, dans ma tête c'est genre
j'aurais été champion.
Dans ma tête, c'est un des deux là. Donne-moi en un entre Jalen Williams et AJ Mitchell qui se blesse pas.
Et on est champion.
On est là. Je sais pas, mais on est la meilleure équipe. Pour moi, en tout cas, quand on a un joueur de plus, un porteur de balle en plus, et ce qu'on a montré, on doit pas perdre contre les Spurs en 7. Et je pense encore aujourd'hui, je sais pas parce qu'on n'aurait pas pu jouer la finale.
Ah oui, dans ce sens-là, je suis d'accord.
Mais dans le sens, j'ai la meilleure équipe.
Mais ça.
C'est une anomalie là, et il y a un peu les blessures, il y a un peu les Spurs, on a merdé dans notre matchette, mais je pense toujours être la meilleure équipe.
Ouais, mais si t'es les Knicks, tu te dis, attends, l'année dernière, on aurait pu être en finale. Donc ils avaient des blessés. Et oui, quand on a débriefé la saison du Thunder, on a dit qu'ils avaient le droit d'avoir le seum. Ils ont même le droit de se dire, s'ils veulent, qu'ils auraient fumé les Knicks. Ça reste à prouver.
Ouais.
Parce que jusqu'à maintenant, t'es meilleur que Jalen Brunson tant que t'as pas joué Jalen Brunson, c'est ça? Ou comment c'est
ça?
C'est quoi
ça.
Le proverbe?
Tout le monde est meilleur que Jamie jusqu'à ce qu'ils affrontent Jamie.
Voilà, donc.
Mais c'est la phrase qui restera sur cette
qu'ils aient du seum côté Oklahoma City, ouais, c'est logique, t'as des blessés quand même hyper importants.
Quand on était à l'Arlequin, c'était pile le moment où tout le monde, la finale commençait, le soir même, le match, hein, et tout le monde était là, genre. Les gars, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et le point qui revenait dans la bouche de tout le monde, c'était que valent vraiment ces Knicks en fait? Parce que, ok, ils ont mis des sweeps, mais c'est à l'Est. Il y avait même des phrases genre, s'ils sont à l'Ouest, quoi, ils jouent Minnesota, ils les tapent, on savait pas comment les jauger par cette espèce d'écart supposé entre deux conférences.
Ouais.
Et ça, aujourd'hui, les Knicks, moi, je trouve qu'il faut leur rendre. Non seulement ils l'ont envoyé chier, et j'ai même l'impression que là, tu leur donnes n'importe qui. franchement, leur niveau monte s'il faut. Leur... Et ils sont capables de gagner, j'ai l'impression, n'importe quelle série de playoffs.
Ils sont capables, en tout cas.
Ils... Vraiment, ils ont montré ça, quoi.
Non, non, ils ont été énormes exactement au bon moment. Pour faire un focus Spurs, parce qu'évidemment, bon, c'est une saison. Le moment
c'est
présent,
une saison de malade.
Le moment présent oui. est très très dur. Moi, vous vous doutez bien la gueule que je tire depuis cette nuit et sur ces derniers jours, parce qu'on va pas se mentir.
Surtout le Game 4.
Alors, mais toute la série, pardon. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont perdu les finales, etc. Excusez-moi, mais nous, on a vécu un truc là, en l'espace de 10 jours. La physionomie des défaites, tu gagnes 70% du temps au score, tu te fais remonter à chaque fois. L'apprentissage a été hyper dur, là, vraiment sur le plus haut stage. Ouais. C'est une saison qui, en tout point de. Début octobre à fin mai est énorme. Jamais ces Spurs n'auraient dû jouer à ce niveau-là. Il faut aussi se rendre compte que ce groupe a défoncé oui. toutes les probabilités. Oui. Et ah déjà, bah. C'est incroyable pour lui, pour le groupe, pour Victor, pour tous ces gars. On a vu hein, des énormes apprentissages là pour Mitch Johnson, pour Dylan Harper, pour Stephen Castle, pour De'Aaron Fox, pour Wemby, pour Keldon Johnson, pour tous les gars. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est... C'est extraordinaire la saison des Spurs.
Extraordinaire.
Non mais t'as raison.
Incroyable.
Parce qu'on reste sur le côté final hyper amer avec plein de venin avalé où tu te dis qui va rester en tête en disant le match 1 tu peux le refaire des fois, mille fois dans ta tête et le gagner. Enfin tous les matchs que t'as perdu.
Le match 4 tu dois être à 2-2. Tu dois être à 2-2.
Le match 2 il est dur aussi. Oui, mais la passe dans le dos, le shoot raté.
Ça je suis d'accord. Mais le match 4 t'as pas le droit. Tu
le match 5.
La finale tu peux entre guillemets te névroser tout seul et te la refaire et te la refaire à tout éternel toute ta vie tu vois. Je pense pas qu'ils vont. J'espère pour eux qu'ils vont pas rentrer comme ça dans le truc. Par contre, là où t'as hyper raison, c'est que normalement tu dois pas, même pas y être en finale.
Mais
normalement,
pas,
tu dois même pas être.
Tu dois même pas être en 8 conf.
Bah normalement, tu perds le 7 contre Oklahoma et ça s'arrête là. Et tout le monde. C'est ça qui est paradoxal avec les finales.
Ouais,
et tout le monde dit c'est incroyable la saison des Spurs. Il y a pas de discussion. Fox, faut qu'il dégage. Wemby, il est pas clutch, je sais pas quoi. Et en fait, c'est la finale qui a un tel. Comment dire. Bah les lumières, tout ça. Qui a un tel stage. J'ai pas le. Mince, comment on dit. Une scène qui est une scène tellement violente comme ça parce que l'enjeu est tellement puissant qu'on reste sur un truc là t'écoutes des gens faut virer Mitch si ça se trouve si tu te laisses porter par la dictature de l'instant du moment
Johnson
de la finale
dégage.
Mitch Johnson il dégage Fox tu le renvoies aux Kings faut voir
Kevin
plein de choses
alors
qu'en fait les Spurs normalement
ils se rendent pas compte les gens
ils doivent pas être en finale
non mais c'est pas qu'ils doivent pas être en finale c'est qu'à la base ils devaient gagner entre 42 et 48 matchs.
C'est vrai que si on remonte carrément en octobre.
Ils en ont pris 62 déjà.
Mais non.
Déjà.
Non,
ensuite, Wemby est défenseur de l'année unanime. Bon, ok, très bien. Keldon Johnson est 6ème homme. Mitch Johnson fait partie des meilleurs coachs de régulière.
Wemby est top 3 MVP.
Wemby est top 3 MVP. Ils arrivent en playoff. Alors après, ils ont un petit alignement de planète un peu sympa. C'est-à-dire qu'ils jouent des Wolves quand même diminués en demi-conf après avoir tapé des Blazers.
Diminué,
ok, très bien. Mais bien diminués, donc ils les font. Ensuite, et c'est là où ils les font bien. C'est là où on commence à prendre conscience du potentiel incroyable de cette équipe contre les Wolves. Okay, les Wolves sont blessés, ça reste un adversaire difficile à battre.
Quand ils égalisent là contre les.
Il y a de quoi demander aux Nuggets.
Le fameux match le coup d'à coude avec le coup de
voilà,
foudre. C'est là où les playoffs des Spurs tournent.
Ils montrent vraiment quelque chose. Ensuite, t'es mené 3-2 par le Thunder et tu dois aller chercher un match 6 et un match 7. Match 6 à la maison, match 7 à l'extérieur. Incroyable de mental, de niveau de maturité et tout. Et oui, tu perds en finale. Et ce qui est relou, c'est que tu perds en finale. Le score est sévère 4-1. Et en plus, t'as que des comebacks, et dont un. Le game 2 est improbable, mais le game 4, c'est un comeback, c'est un choc historique. 29 points d'avance.
C'est le plus grand de l'histoire.
Pardon, mais 29 points d'avance, c'est quoi l'équivalent? C'est Liverpool qui est mené 3-0 à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions. Milan AC, c'est ça l'équivalent. C'est un truc de fou.
Bah, le match là, il est fini instantanément. Tu sais que t'as vu un des 5-6 trucs, tout sport confondu, les plus fous à un tel niveau. Je parle en finale, sur des finales.
Et tu vois, derrière ça, je suis d'accord avec toi, Simon, on a cette sensation dans le match 5, les Knicks, inexorablement, ils vont revenir. Mais c'est malgré le choc incroyable du Game 4, qui fait mal dans les têtes avec toutes les critiques et tout, eh ben, on entame de match 5, les Spurs, ils sont là, ça exécute fort défensivement, ça s'applique. On est sur une première mi-temps, Spurs, 42 à 37 à la mi-temps. Ça, c'est normalement sur le papier, c'est un score. Tu dis, bon, ça, c'est nickel pour les Spurs. Rythme de merde, ça défend bien, ça shoot mal. Tu vois, genre, parfait. Tu vois. Et donc, il faut quand même, genre, à titre personnel, moi, je suis pas fan des Spurs. J'avais pronostiqué Knicks parce que je croyais en ces Knicks et
vrai,
tout.
Bravo.
Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que le somme est archi compréhensible. J'espère que ça va garder la tête froide côté management des Spurs pour ne pas faire nimp et se lancer. Je dis pas qu'il y a pas de mouvement à faire, mais genre doucement.
Oui. Mais bien sûr.
Je pense doucement bien sûr. Et ils ont je sais pas ce que t'en penses.
Bah,
toi,
là-dessus,
mais...
je peux te dire du coup.
Tu peux me dire, t'as eu du monde au téléphone.
J'ai pas eu du monde au téléphone, mais en tant que fan des Spurs, le sentiment qu'il y a, qui prédomine, c'est que c'est à la fois une amertume logique d'avoir vécu des finales de cette manière-là, mais qui est au même niveau que le plaisir d'avoir vu cette équipe exploser cette saison. C'est pas l'amertume n'est pas telle qu'il va y avoir des décisions terribles qui vont être prises cet été.
Non, je pense pas.
Absolument pas. La plupart des gens sortent de ce truc et se disent pardon.
Incroyable.
Le backcourt de l'année prochaine, si ça se trouve, c'est Dylan Harper, Stephen Castle et Quimby qui va avoir 23
comme moi les playoffs de Dylan Harper.
Mais oui, non, mais moi j'ai même plus.
C'est le mec qui est rookie.
La plupart des gens ne sont pas.
On est d'accord.
En attente de moves drastiques. Ce qu'il y a, c'est réaliser le fait que là, il y a un truc incroyable qui a eu lieu et que. Comme dans plusieurs franchises, il faut qu'il y ait des moves. Le Thunder, avant d'être champion, on a parlé du Caruso move et de Hartenstein, et ils ont fait ces moves qui les ont fait basculer.
C'est au tour des Spurs de faire leur Caruso.
C'est à San Antonio de faire ces moves avec des joueurs vétérans. C'est à San Antonio aussi de dire à Mitch Johnson, il ne faut pas être jusqu'au boutiste et savoir ouvrir ses rotations. Regarde ce qui s'est passé avec Mike Brown. Quand Mike Brown, il doit faire jouer Hugues Porty dans un match de NBA.
Il
n'hésite
pas une seconde.
Il n'hésite pas, il le fait jouer.
Et le mec est prêt. Hein.
Et le gars, il est prêt. Lorsqu'il faut avoir peut-être du Harrison Barnes ou d'autres gars pour venir aider, ne sois pas jusqu'au boutiste. Il faut être capable de s'ouvrir. Ouais. Simon, t'en as parlé beaucoup avec moi avant le début de l'émission. C'est les Spurs étaient confiants que leur top 6 était meilleur que le top 6 des Knicks, sauf que les 6 meilleurs des Spurs ont joué face aux 11 meilleurs des Knicks.
Ah oui, c'est ça.
Moi, donc il faut améliorer l'effectif.
Les erreurs, moi, j'irais même encore plus loin que vous, hein, franchement. Sauf que ce serait injuste et même bête de se focaliser sur les erreurs des finales et de qui sont en fait 5% et la fin de trucs. Évidemment que cette équipe, il lui manque des trucs pour gagner une finale NBA, mais en
évidemment,
fait évidemment puisque c'est une équipe, on en revient à ça. En début de saison, on se disait
play-in, top 6 éventuellement,
play-off direct peut-être, avoir machin, et il y a des failles dans l'équipe, il y a des failles qui sont en fait grosses, vraiment grosses, pas énormes mais grosses, et qui ont été comblées un peu pareil miraculeusement, mais t'as tellement de talent.
Tellement.
En fait, que tes failles sont quoi? Parce que je disais à Bastien un truc, je finis juste avec
vas-y.
Tu vois les finales et que tu vois comment jouent les Spurs, moi j'ai dit à l'impression, en fait, t'as l'impression que les Spurs, dans leur effectif, le poste 4 titulaire, c'est genre PJ Washington, il est pété pour tous les playoffs et il doit faire du bricolage dans leur raquette. T'as l'impression qu'il leur manque un joueur, ils n'ont pas de pivot remplaçant. Il s'est blessé.
Si, il y a Luke Kornet.
Bah oui, mais en fait, ça devrait être le troisième pivot. Et il y avait un mec capable de jouer 4 et 5, qui jouerait small balls quelques minutes, tu vois, quand ton NBA est pas là. Genre PJ Washington, un truc comme ça.
Il leur manque un vrai poste 4.
Et en fait, il y a un trou dans l'effectif. Ils n'ont pas de poste 4 capable de faire du small ball 5 quand ton NBA est pas là. Ils l'ont pas. Et du coup, Champagne est titulaire parce qu'en fait, le titulaire est blessé. Le PJ Washington, là. Enfin bref, le titulaire habituel est blessé.
Après, on peut discuter de l'utilisation de Harrison Barnes, non, quand même, de la part de Mitch Johnson.
Mais on peut discuter de plein de choses. Mais pourquoi on peut discuter de ça? Parce que l'effectif des Spurs, il est incomplet, il est encore bancal, il est très jeune.
Il va y avoir des décisions à prendre sur notamment l'extension de Champagne.
Et tout ça est comblé par le talent fabuleux du Big Three, quoi.
Oui, tout à fait.
Le Big Three, Castle, Harper ou Embiid, quoi. Qui bouge tellement de trous.
Il y a tellement de talent qui bouge des trous. Il y a une question.
Moi, je vois les choses comme ça, vraiment.
j'entends.
Il y a une question quand même que Santoni ne va pas pouvoir éviter. Et celle-là, je vous la pose parce que quoi qu'il se passe cet été, il faudra une réponse d'ici la reprise. On vient de voir les playoffs de Dylan Harper. Comment gérer la situation? Parce que c'est 2 et 2 font 4. Les Français aiment manger du pain. Dylan Harper doit être un titulaire en NBA. Personne ne sort de ses playoffs en pensant autre chose que ça. Ce mec a un talent tel que tu ne peux pas garder ce mec sur le banc. Comment tu gères cette situation, Santonio, par rapport à De'Aaron Fox, Steph Castle, Dylan Harper?
Steph Castle, il est titulaire à côté de Dylan Harper. Donc déjà, ça s'est réglé. Et ton sujet, c'est plus de c'est quoi ton 5? Est-ce que c'est Fox, Harper, Castle? Et tu demandes à Castle et Harper d'être décalés un peu, notamment défensivement. Après, c'est des athlètes, ils peuvent faire des choses. Et du coup, tu demandes à Vassell d'aller sur le banc ou tu trades Vassell, qui là a une valeur, Vassell. Il a fait des bons playoffs, Vassell.
Ah, moi, je le bouge
attention.
Pas,
non, mais attends, si t'es un management, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est lequel le joueur le plus facile à trader? C'est Fox ou c'est Vassell? Là,
c'est
au niveau, en termes de contrat et d'apport, je pense que Vassell est super tradable.
Et puis il y a le contrat de Fox.
Et le contrat de Fox n'est pas si super tradable que ça, vu ce qu'il propose parfois.
Pendant c'est marrant, autant ils ont arnaqué les Kings dans la contrepartie, autant le contrat, ils n'étaient peut-être pas obligés aussi vite. Je sais pas. Après, c'était clin d'œil au moment du transfert.
Moi, ça m'a pas
dérangé.
Il
est gros, le contrat de Fox. C'est vrai que là, ça monte à 5. Il y a deux saisons, c'est 55 minutes. Mais c'est pour ça que moi, pour répondre à la question, moi, je garde Fox titulaire, malheureusement. Et je dis à Harper, en fait, mec, cette saison, T'étais même pas, t'es censé être rookie, remplaçant et tout. Là, tu vas devenir le sixième homme officiel, un peu à la Ginobili, étape par étape. Ah, mais sinon, Fox, tu
Mais je sais pas si
Mais sinon, Fox, pourquoi je fais ça? Non, mais attention, je fais ça à court terme pour dire. Et en fait, j'ai 6 mois pour faire remonter la valeur de Fox et trouver un trade.
Bah, moi, je suis Dylan Harper chez mon pote, je suis pas d'accord.
Bah, t'as 6 mois.
Ah, bah, moi, je suis Dylan Harper et son clan.
Ouais, je sais.
Ron Harper, en plus, Ron Harper, t'as vu, c'est un pitbull. Hein. Il va débarquer dans le bureau d'Espace et va faire les gars, vous êtes des oufs.
Je sais. Mais
en tout cas, il va falloir que Harper confirme. Ça déjà, c'est la
première
chose parce que
pas... moi j'adore Dylan Harper.
Parce qu'il y a quand même des choses Dylan Harper où on est tous extasiés, notamment par son rythme de jeu, etc., et sa façon de faire.
Non, mais il fait des erreurs et tout, mais quand même.
Il était dans un rôle aussi qui lui permettait de. Mais il y a aussi des choses où on va voir s'il est capable de aider à gérer une attaque.
Bien sûr, la durée aussi. Là, exactement. Deux semaines, dans 2 mois en playoff où il est incroyable. Mais regarde sur la saison. On le voyait venir, Dylan Harper, mais là c'est fou les playoffs qu'il fait.
C'est fou.
Moi, le seul truc dont j'ai peur, c'est que si je mets Fox là sur le banc, et vous avez raison, effectivement, au niveau du talent, bah,
Fox,
Harper,
je ne mets pas sur le banc, moi j'essaie de le trader, moi par contre.
Bah, ah, oui, tu veux qu'à la rentrée, il ne soit plus là.
Je veux.
Ça, mais
si,
là ton trade, tu perds.
Et de toute façon,
sa valeur là.
Genre, tu fais comment pour faire remonter sa value?
Bah,
le mec était,
je laisse
le mec
sur le banc 6 mois, je fais jouer Fox et j'essaie de me démerder.
Simon, il était option numéro 1 à Sacramento, on est d'accord, offensivement. Là, dans le meilleur des cas, tu fais remonter, comment tu fais remonter sa cote? Au mieux, il est option numéro 3. Il peut pas être devant Cassel et Wemby, c'est impossible. Ah franchement, alors là,
non,
par
non,
contre,
je
les
sais,
gars.
Non, non,
donc du coup, regarde, t'as une option numéro 3 avec un contrat de franchise player, plus ou moins, quoi. Mm-hmm. On est d'accord? Donc déjà, l'équation, c'est la merde.
Ouais.
C'est la merde. Si tu le fais jouer 6 mois, j'entends. Hein. Tu peux essayer de le faire jouer 6 mois en lui filant des ballons. Et puis, si tu tabasses un peu des équipes, tu mets Cassel sur le banc et tu laisses Fox
la deadline,
se mettre en avant et
t'essayes
de
trader.
Mais sa valeur aura monté, mais tu prends aussi. En fait, ça va dépendre aussi des éventuelles offres qu'il y aura. Ce que je veux dire, c'est que même avec sa valeur qui remonte, chez les Spurs, c'est une option numéro 3 avec un contrat de franchise player. Et ça, moi, c'est une équation qui me fait flipper. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, ça me fait bader. C'est-à-dire que si j'ai l'occasion, même en y perdant, de splitter le contrat de Fox en un meneur vétéran un peu surpayé et un vrai poste 4, peut-être il est titulaire vite fait ou pas ou quoi, mais au moins c'est un vrai poste 4. Et ben je me demande si je le fais pas tout de suite. Et tu sais quoi, après comme j'ai un vrai poste 4, je peux mettre Champagny à son vrai poste 3. Je peux mettre mon vrai poste 4 à son poste 4. J'ai Wemby et là c'est Vassell qui sort du banc et j'ai Harper titulaire. C'est un exemple. Hein.
Non mais j'en parlais en rigolant, mais moi j'appelle Dallas et je leur dis ça va Fox contre Najee Marshall et PJ Washington et on va laisser peser. Tu vois.
Oh bah ça c'est incroyable comme trade.
Moi j'ai un seul scénario qui existe, bon, qui peut être un peu différent là des vôtres.
Surtout qu'il y a Carter Bryant derrière à développer, c'est bien.
Carter Bryant, ouais. Moi le seul scénario que je vois c'est quand on est sorti des finales 2013. Et le drame qu'il y avait eu à San Antonio, qui est un tout autre drame, hein, avec Ray Allen dans le corner, etc. Manu Ginobili sortait de finale absolument atroce, et il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites, notamment sur le fait qu'il devait avoir moins de temps de jeu, que si ça se trouve le corps ne suivait plus,
ouais,
etc.
Fini, ouais.
Il y a aussi un scénario très Spurs,
où
ce groupe-là est conservé, utilise ce qui s'est passé pour revenir. Dans un an, on fait le même apéro et De'Aaron Fox est le 3 ou 4e meilleur joueur d'une équipe championne. Et à ce moment-là, on se dira peut-être, bon, peut-être que nous on fait des apéros et que les mecs, quand il faut être dans la continuité du groupe, ils font les bons joueurs.
Complètement, mais c'est quand même très différent
en
termes de contexte.
Et là, je reviens à ce que je disais, Alex.
Très différent.
Oui, mais il y a une couille dans le potage quand même, c'est que le temps que tu fasses ça. Dylan Harper, il va falloir quand même vite lui faire comprendre qu'au pire, Fox, c'est là pour lui faire monter la valeur et tout, mais que le futur, c'est lui. Il faut absolument pas qu'il y ait un doute dans la tête de Dylan Harper de, au moment de la prolongation, à la seconde près où je suis éligible à une prolongation, c'est réglé. Et je suis l'avenir avec Cassel et Wemby de cette équipe. Et il n'y a même pas une discussion. Parce que je pense que là, toute la Ligue le veut, Dylan Harper, sinon. S'il y a une espèce d'interstice qui se crée en mode Dylan Harper, il faut qu'il attende un tout petit peu trop par rapport à la situation de Fox.
En fait, là,
attention à ça.
Simon,
ça,
tu vois, Dylan Harper, il doit être content de sa situation. Il est rookie, il est dans une équipe où, ok, il n'était pas titulaire, mais il a eu des grosses minutes dans des playoffs.
C'est pour ça.
Il y avait le sixième homme de l'année.
Ouais.
Keldon Johnson, ouais. Et en playoff, le vrai sixième homme des Spurs, Mitch Johnson, pour le coup, il a pas hésité, c'était évident, hein, genre, voilà, mais il a mis Dylan Harper, vraiment, les grosses minutes en sortie de banc, c'est Harper, Keldon a eu des bonnes minutes aussi, mais vraiment, le gros sixième homme, il a clôturé des matchs et tout, enfin, ça a été un joueur très important. D'ailleurs, ça a posé des problèmes aux Spurs.
Il a eu la balle en main, il a eu des responsabilités.
Ça a posé des problèmes aux Spurs qui, du coup, ils savaient pas, est-ce que je dois avoir Fox ou est-ce que je dois avoir Vassell sur le terrain avec Castle Harper, tu vois. Et là où moi je dis que débarquer la saison prochaine et dire à Harper tu vas être sixième homme, c'est oui, peut-être que tu peux lui faire entendre pour sa saison sophomore et son papa était professionnel et machin et il a été d'abord gros scoreur puis pour jouer à côté de Jordan et Pippen,
il
s'est transformé en une espèce de meneur défensif qui scorait plus trop et tout, et ça lui a rapporté 3 bagues, hein, donc tu vois, donc il peut avoir des discussions avec son papa et c'est hyper important, ou peut-être qu'il va avoir de l'entourage qui va savoir lui poser des bonnes bases. Mais je répète, le vrai sujet et va même au-delà de ça, c'est-à-dire que est-ce que vraiment tu peux faire espérer remonter la value de Fox si ton but c'est de le trader, hein. Parce que Bastien, ce que tu as dit toi, c'est de le garder et de dire non non, avec ce groupe là qui va progresser,
ben
dont
c'est
Fox,
le même chemin, en fait.
On peut aller au bout. Non mais c'est ce que tu as dit.
Je dis juste que si on en croit l'histoire des Spurs,
oui.
Un move dramatique d'un joueur du 5 majeur en sortie d'une finale NBA où tu devais pas y être à la base parce que t'es la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire, ce n'est pas dans l'histoire des Spurs.
Non, mais à l'époque, en 2013, ils sont une des équipes les plus vieilles de la ligue. Ils ont une expérience de fou furieux.
Je comprends juste le côté des moves dramatiques en sortie de finale frustrante.
J'entends, mais regarde Thunder 2012, pardon, hein, je le reprends. Hein. Fallait le garder ou pas, Harden? Harden Harper, il y a quand même des points communs de fou furieux.
C'est pour ça qu'il faut
faire. On les voit, les points communs de fou furieux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils ont préféré, et ça se défendait à l'époque, attention. Hein.
C'était une autre situation financière.
Est-ce que Ibaka, une autre situation financière, je sais pas, parce que là, ils vont avoir des contrats max affilés, de toute façon. Hein.
Les Spurs?
Bah oui. Hein.
Juste la parenthèse par rapport à ça, c'est que Fox, si le contrat était assez gros et moi j'avais pas de problème, c'est que littéralement quand ça va commencer à terminer, vont commencer à kicker les gros des Spurs.
Ah oui.
Et donc du coup la situation avec le Thunder à l'époque, c'est qu'il fallait par rapport au cap choisir entre Ibaka et
Harden. Il y avait un petit décalage. Ouais. Il n'avait
pas le choix.
Il fallait choisir un peu vite, certainement.
C'est ça.
Là les Spurs ont peut-être un peu plus de temps, mais la situation se ressemble. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où, d'ailleurs c'était déjà Sam Presti, non?
C'est Sam Presti,
ouais, et son staff se sont dit.
Sam Presti qui dit en gros, Harden, t'as 48 heures, c'est ça qu'on t'offre pour accepter.
Premièrement, et pourquoi il y avait cette décision, il s'est déjà expliqué, Sam Presti, là-dessus. Il a dit bah, j'avais Westbrook et KD déjà, talent de fou, et avec mon staff, en connaissance de cause, on s'est dit que autour de ce duo, on avait envie d'expérience et de joueurs machin et ceci et cela. Et ils ont donc regardé James Harden devenir un des tout meilleurs joueurs de la ligue, MVP, dans une autre équipe.
Je suis d'accord. Il y a une grosse différence pour moi, c'est que le contrat...
C'est un bon exemple aussi, pour répondre à l'exemple de Bastien des Spurs 2013. Quoi.
Il y a une grosse différence, c'est que Westbrook, qui avait déjà signé le contrat, un peu comme la Fox, qui était ton meilleur titulaire, il était intransférable pour le Thunder. Je veux dire, il n'y avait même pas le début de la réflexion de... Alors que là, les Spurs peuvent se dire, le temps, on a encore un an et demi, pour Fox peut devenir très vite transférable. Vraiment dans 6 mois, 1 an et tout. Et du coup, t'as pas ce problème avec Harper et tout au niveau de la... Moi, j'ai l'impression que c'est le bon chemin. C'est-à-dire que soit tu fais comme ce que Bastien dit, Fox revient tellement bien que t'as pu à le transférer, soit il revient et tu peux le transférer si possible contre un poste 4. En plus, t'équilibres l'équipe en même temps. Tu laisses la place à Harper, tu laisses la thune à Harper.
Oui.
C'est pour ça que je prendrais ce chemin-là et que je protégerais un tout petit peu Fox aussi là de la tornade. Tu dis, comment dire, en lui laissant peut-être sa place de titulaire et en essayant d'amadouer.
Je comprends, mais il y a beaucoup de risques.
Mais tu le flingues, quoi. Sinon.
Et dans tous les cas, on va revenir dans quelques années en arrière en disant tous ah bah moi j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela.
Bah comme on le fait avec le Thunder.
Mais tout à fait, en moins sexy, désolé, mais j'ai aussi les mentionné, il y a deux choix qui sont moins sexy que le sujet Fox, hein, mais que les Spurs, pour moi, vont devoir traiter qui sont encore plus importants. C'est un, Sean Sweeney se barre. Attention.
Coordinateur défensif.
Sean Sweeney se barre. Attention. Le boulot qu'il a fait.
Il va où? Orlando. Hein.
Head coach. Ouais.
Je peux te dire que là, moi, je me souviens quand Sam Cassell a rejoint Joe Mazzulla en assistant à Boston, ils se sont frottés les mains. 12 mois après, ils étaient champions. Ouais. D'avoir un mec qui connaît le chemin et qui dit Mitch, je vais t'aider aussi dans ces situations-là pour prendre des gros choix. Donc déjà, il faut remplacer Sean Sweeney.
Steve Kerr, depuis qu'il a pu Mike Brown.
C'est pas la même, exactement.
Au Cavs, Jordan Ott, nous, là au Suns maintenant, c'était l'assistant offensif des Cavs. Ça joue, hein. Le staff, c'est hyper important.
Donc ça,
c'est sûr.
Un, Sean Sweeney, très important. Je sais que c'est pas sexy, mais quand
même,
il faut
remplacer. Mais t'as raison, c'est hyper important.
Et la deuxième, je sais, c'est un joueur qui est peut-être le moins sexy des gars du 5 majeur, mais attention à ces équipes-là qui percent beaucoup plus tôt que prévu et ont des situations contractuelles. Extension Juan Champagny.
Ouais.
C'est-à-dire que Juan Champagny, aujourd'hui chez les Spurs, quand t'as un knockdown three-pointer qui est capable défensivement mais qui n'est pas énorme,
qui vient se battre au rebond,
qui vient se battre au rebond et qui aide.
Franchement, il a fait une belle campagne.
Comment ça se passe si Champagny et son camp ils viennent et ils disent moi je suis gourmand? J'en suis pas certain parce qu'il est très reconnaissant de l'opportunité que les Spurs lui ont donnée. Mais
moi je réfléchis très fort.
Mais comment tu fais?
Ça dépend gourmand comment.
Moi, tu mets tout de suite Carter Bryant.
Comment?
Tu mets tout de suite Carter Bryant dans des situations de développement accéléré parce que Juan Champagny il va devoir être à la table avec le management des Spurs là cet été.
Oui, oui,
là,
oui.
Là.
Mais ça dépend gourmand comment, c'est toujours pareil quoi.
Et bah, je crois que
parce qu'il a une belle value là, hein. il faut le payer ce genre de joueur.
Hein. Moi je crois que je fais une Popovic, je vais le voir et je lui explique que c'est le mieux pour ta famille. Prends le contrat max à Brooklyn. Écoute,
ouais,
mais en le manipulant. Parce que pour moi, à terme, Champagny, si les Spurs gagnent un titre et tout un jour, c'est un joueur de banc.
Tu peux
peut-être
à terme dans une équipe
mais un joueur important quand même, un joueur qui compte.
Mais du coup, c'est peut-être la flexibilité. Si je lui donne trop d'argent, c'est peut-être ce qui m'empêche de faire venir mon 4. Ouais. Moi, je maintiens l'équipe là. Il faut de l'aide dans la raquette.
Il faut
de l'aide à la
raquette.
Bien sûr,
un plus gros banc et de la raquette.
Champagny, c'est pas un intérieur.
Ouais. Mais est-ce que t'as pas plus intérêt à avoir un contrat de Fox splitté?
Si. Mais pour
mais
pouvoir faire ça,
peut-être que la valeur de Fox n'est pas assez bonne à l'instant T et que t'as raison, Simon, faut attendre 6 mois.
Si la
ou Bastien,
trop,
faut
ça,
attendre un an. J'entends, mais par exemple, imaginons, je me fais l'avocat du diable. Tu dis non, on va pas mettre ça sur la quand même Fox là, ça va être trop chaud, valeur basse, on risque de vraiment mal le trader, donc on repart. Et puis la discussion elle se passe bien avec Dylan Harper et le clan Harper, papa Harper et compagnie. Et genre en gros, il va être sixième homme, il va jouer 32 minutes par match, il est candidat au sixième homme de l'année dès qu'il met un pied sur
Manu,
le terrain.
Et il est potentiel All-Star.
À la Manu, il est potentiel All-Star, ça va être très dur en tant que sixième homme d'être All-Star, mais on regarde. Mais il a du talent et tout, on y va. Et par contre, malheureusement, en fait, Fox, on est sur un plafond et sa valeur en tant que troisième option par rapport à son contrat fait que même dans un an, quand tu te fais éliminer en demi de conf, avocat du diable toujours, hein, tu te fais éliminer en demi de conf par
Oklahoma,
ou les Wolves qu'on recrutait, je m'en fous, enfin un truc comme ça, tu vois. Et là, Fox, il est pas plus tradable.
C'est vrai.
Par contre, là, t'as Harper dans ton bureau qui fait, hey, gros. La place de titulaire que tu m'as promis il y a un an, elle est là.
Qui en fait, c'est le même chantier que l'an dernier. Pourquoi t'as laissé une deuxième chance à Fox? Pourquoi moi j'attends?
Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien vos options.
Non, tu as raison.
Mais peut-être qu'en sous-main, on sait que ça se fait beaucoup en NBA. Peut-être qu'en sous-main, il faut tâter le terrain. Parce que si ça se trouve, et ça se trouve non, hein, mais avec la taille du contrat de Fox et le fait que tu peux encore faire miroiter, tu fais ok, ouais, c'est plus off, t'es compliqué, mais c'est un vrai lieutenant. Tu vas pas faire croire que c'est un franchise player, mais tu vas dire, hey, c'est un vrai lieutenant, il est sympa avec les jeunes. Regarde, nous, nos jeunes, ils ont grave envie de le garder et tout. Je pense que Fox c'est un bon gars, hein, dans un vestiaire avec Mike Brown, j'ai pas kiffé, mais dans le vestiaire ça a l'air d'aller, non?
Oui non, bien sûr, moi
j'essaierai de le trader, moi perso.
Je t'avoue que
moi j'essaierai.
Bon, moi je vais garder le groupe, même si c'est pas sexy, mais je vais garder le groupe en renforçant là le banc, notamment avec un vrai 4 qui peut aider.
Fort. Pour synthétiser,
mais comment tu fais pour avoir ton 4?
Ce qui est sûr pour moi, c'est que ton Harper, Castle, Wemby, il n'y a même pas de début de réflexion de quoi que ce soit, c'est des intouchables. Franchement, le reste, selon les différentes options, je peux réfléchir à beaucoup de choses.
Donc Fox aussi.
Je peux réfléchir à beaucoup de
choses. Fox inclus.
Tu sais que je peux même me contrer. Oui, Fox inclus, bien sûr. Mais je vous disais, Champagny, en fait, il y a peut-être un chemin aussi où dès là, tu fais un trade de Vassell, ou c'est peut-être autre chose. Quitte même à sacrifier Carter Bryant pour un gros poste 4, Champagny repasse 3, peut-être tu peux refaire ton
là, moi je trade.
Il y a pas mal de possibilités.
Là où je peux te suivre, c'est que je pense que la valeur de Vassell, elle est incroyable. Avec en plus, lui, pour le coup, il a un contrat très tradable pour un mec qui a été titulaire tout le long des playoffs.
Ah, moi,
tu
là,
peux peut-être avoir un poste 4 vraiment sérieux
en
pour le contrat de Vassell.
J'avoue, là, s'il y a trade de Vassell et pas de Fox,
Et voilà.
Ah bah c'est ça le problème.
Et voilà.
Genre s'il y a un mec qui est transféré et que c'est Vassell devant Fox, je vais faire oh là là, je connais même pas cette franchise, je la connais même pas, je sais même pas qui est Brian Wright.
On est d'accord. Moi je trouve que tu trades plus Fox
avec les
que Vassell.
Qu'a fait Vassell.
Je suis d'accord avec vous, le seul truc c'est que dans la on a vu deux choses dans ces playoffs. Les Spurs, il y a quand même leur identité de jeu hormis Wemby, il y a quand même ces trois slashers normalement en permanence, Castle, Vassell, Castle, Fox et Harper.
Ouais.
Qui sont quand même trois des joueurs qui attaquent le cercle. Ça c'est important dans l'identité. Donc Fox, moi je veux bien qu'il parte, mais je retrouve quand même au moins un sixième homme porteur de balle et tout, pour avoir sur le backcourt un arrière dynamique. Et on a vu quand même que sans Fox, d'un coup, moi j'ai trouvé la gestion de la main, en fait, c'est un problème.
Mais ils sont jeunes,
Harper n'est pas encore pris.
Non,
Castle,
mais ils vont progresser.
Et Castle, quand il n'y a pas Fox, c'est
oui, mais là, ils ont
10 balles perdues par match.
Il n'a pas pris sur le game 5, mais mon dieu, le match 5 de Stephen Castle.
Oui, alors Castle, il est bien. Moi je trouve que Fox. Fox prend cher et il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que Castle, il y a un peu un paratonnerre qui s'appelle D'Andre Fox.
Non, oui, tout à fait. Mais du coup, il a pris 1000 points d'expérience par contre là. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est un peu comme ça.
Je sais que c'est pas sexy, mais j'avoue, je conserverai une grande partie de ce groupe et je miserai sur. Oui. Voyons voir comment on est capable de développer cette équipe en année réelle 2, parce que c'est juste, de ce groupe-là, c'est sa réelle année 2.
C'est-à-dire toi, tu gardes tout le monde, Bastien, enfin, plus ou moins, quoi.
En fait, j'aimerais dire, D'Aaron Fox, on va discuter. Déjà, il y a une chose qui est claire, c'est que si on n'arrive pas à te transférer et que nous, on reste comme ça, il faut que tu deviennes très clairement un meneur gestionnaire bien ou... On est d'accord, il n'y a pas
option
de problème.
4,
tu vas avoir, option 4. Tu vas avoir 26-27 minutes par match et Dylan Harper va en avoir 33, on est d'accord ? Allez, merci. Ça déjà, ce dossier, il est réglé.
C'est l'option 4 en attaque.
Et tu peux nous aider. Carter Bryant, frérot, on a vu ton potentiel. Si tu rentres tes 3 et que tu défends comme tu es capable de défendre, mon frère, dans 2 ans, tu es notre titu 3-4.
C'est ça, c'est même plus discussion avec Vassal. Moi, je pense que tu l'as déjà en fait en développement. Tu
Mais
l'as,
oui. Carter Bryant. Donc, c'est pour ça que quelque part, je comprends la désillusion et l'amertume de cette sortie de finale. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, que cette équipe est la deuxième plus jeune de l'histoire des finales NBA à avoir participé à une finale. Que c'est un coach qui est rookie quasiment. C'est un quasi rookie, Mitch Johnson. Ouais. Et donc, peut-être que ce groupe mérite de vivre une deuxième année ensemble.
Alors, dans le sens de mérite, je suis d'accord presque pour le vécu. Pour le côté où c'est somme, enfin le côté de l'envie de rester ensemble et de digérer ce venin, comme on l'a dit, cette défaite et tout. Et en plus, en dehors de la râle, moi je trouve que là où t'as raison, c'est que ce serait dommage de faire une erreur stratégique parce que t'as paniqué, parce que t'as perdu la finale, alors que tu t'es même pas censé y être. Et peut-être que trader Fox trop
ça,
tôt,
j'entends.
Ça peut être une erreur stratégique.
Ça, j'entends.
Il y a peut-être un monde, tout simplement, où en fait l'an prochain, imaginons, très simple, l'été des Spurs, c'est genre, bon bah ok, on va Harper et Castle, on a encore un peu le temps, c'est pas cet été les prolongations. Par contre, Champagny, on va régler le problème.
Et
on se met d'accord, c'est la famille et tout. Et en fait, on va faire deux petits ajouts. Je dis, alors c'est pas les Caruso, Hartenstein, mais il y a Bouzélé, tu vois, un mec comme Gershon, qui arrive poste 4-5 là dans la rotation, pour remplacer Barnes en fait, qui jouait plus. Et un ailier en plus, shooter, juste un. Pour pas jouer à 6 en playoff, un mec que tu peux mettre, un chamette quoi. Tu vois, un shooter.
Un autre Daron, il me faut un autre Daron.
Ouais, voilà. Imaginons ça. Et ça se trouve, cette équipe, elle est championne l'an prochain.
Elle peut.
T'as pas paniqué, t'as pas tradé Fox, t'as pas machin, t'as rien compromis de ton avenir. Et t'as juste rajouté, entre guillemets, Gershon et Bouzadé et un Landry Shamet. C'est un autre type comme ça, quoi.
Si tu suis l'histoire des Spurs, c'est plus ça. C'est-à-dire, au-delà de 2013-14, où en effet, tu l'as dit, Alex, ce sont des situations très différentes. L'espace entre 2007 et 2013, où il y a eu plein d'interrogations. Plein de.
Avant que ça remonte.
Between ne va jamais y arriver, etc. Il faut revoir. Avant de retourner sur NX, j'ai une question quand même à vous poser, messieurs. Wemby. Saison extraordinaire, premier run de playoff historique. On a dit tous les superlatifs possibles et imaginables. Tu l'as dit, Alex, défenseur de l'année unanime. Le All-Star Game, il l'a remis au goût du jour. Les Spurs, il est top 3 MVP. Les Spurs ont 60 wins. Je veux dire, le succès lui est promis. Oui. Pour autant, on est aussi capable de se poser des questions. Là, quand on voit les finales, et qu'il s'est exprimé lui-même et qu'il a dit « il faut que j'apprenne à mieux contrôler les possessions comme Brunson », il l'a dit, je trouvais ça très bien par rapport à ça. Quels sont les axes, pour vous, de développement de Victor Wembanyama cet été ?
Franchement, juste qu'il continue à faire ce qu'il fait et qu'il continue à travailler comme il fait. Et genre, honnêtement... Je sais qu'on en attend énormément parce que c'est un prodige générationnel. En plus, nous, on n'est pas très objectifs parce que bleu, blanc, rouge, tout ça. Mais honnêtement, genre, déjà, défensivement, il a été dans la continuité de son titre de deep point unanime en playoff. Il a fait des playoffs défensifs, franchement, lourds.
Même encore hier.
Hier, offensivement, c'est compliqué. Il y a des tirs ratés.
C'est
plus
en attaque, moi, la question.
Clairement, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que déjà,
en défense, il y a de la marge de progression, mais ça va déjà tellement.
On a un socle défensif où... candidat à sa propre succession au deep boy pendant 5 ans là, easy, facile, voire 10. Enfin, faut voir les blessures, les machins, mais vous voyez ce que je veux dire. On a une base défensive qui fait que les Spurs vont avoir une défense et ils viennent de le montrer en playoff. Ensuite, offensivement, on a déjà un mec qui, lors de sa première campagne de playoff, a posé, et je viens après sur les chokes, mais a posé quelques grosses refs. Son game 1 contre le Thunder, donc la meilleure défense de la ligue. L'autre il arrive à l'extérieur, game 1 des finales de conf, il fait bonjour, alors quand je suis chaud, il n'y a rien à faire.
C'est le game
3, rien.
3 Minnesota aussi qui était
game 3, game 4
3 Minnesota et 3. Ensuite les Wolves égalisent.
Oui, c'est ça. Attends.
Non, mais on a vu des flashs d'un truc où tu dis je domine la, cette ligue, elle est donc, à moi de la tête et des épaules.
Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit grandir, prendre de la maturité et regarder ses erreurs. Il doit améliorer ses choix en attaque. Mmh. Il doit mieux travailler et aussi, ça va être aussi avec le développement de ses coéquipiers, c'est-à-dire qu'avec un Castle qui se chie pas dessus ou un Harper qui progresse en gestion de la balle, il peut un peu plus être off-ball. Wemby doit poser des écrans, rouler. Wemby doit être, évidemment qu'il est capable de mettre des 3 points et de dribbler, et on trouve tout ça incroyable parce qu'il fait 2m20, mais le vrai avenir, c'est même pas un tiers de son jeu offensif qui doit être ça. Il doit y avoir 2/3 de je roule trop bien, je suis positionné sous le cercle, off-ball, le ballon circule, je mets mes 3 points, je contribue au rebond offensif. En gros, il doit continuer là, je sais pas s'il doit retourner voir les moines Shaolin ou s'il doit y voir, je sais pas, il doit aller voir des temples aztèques au Mexique, je m'en fous en fait, il fait ce qu'il veut au niveau spiritualité, mais il doit revenir avec une vision globale du jeu offensif encore meilleure. Par contre, techniquement et physique, il a déjà tout en fait. Il met ses lancers, bon là il a raté des lancers de fou, mais c'est mental, c'est pas technique. C'est pas technique. Donc moi pour moi
je vois des choses quand même, je vois 3 trucs.
Vas-y.
Le premier, quand même, moi, ce qui m'a saoulé, les lancers.
Enfin, t'es dur. Il est hyper fort au lancer.
Bah, dans le clutch et tout.
Oui, voilà, mais c'est du mental.
Ouais, mais ça se travaille, je pense.
Oui.
C'est vraiment la partie mentale, la partie mentale de la fin des lancers de fin de match.
Ouais, vraiment que ça devient automatique.
Il a pas été clutch.
C'est bête, hein. Mais je me bouffe du, vas-y, 500 lancers par jour là pour être vraiment, pour même si, voilà, pour encore plus. Mais ça, c'est le moins important.
Mais juste, Simon, excuse-moi, il tourne à 85%
lancé
sur les
playoffs. Je sais, mais j'avoue que dans le clutch, mais voilà, c'est pour...
Je comprends, il n'a pas été clutch.
Mais j'ai commencé par ce qui était le moins important, c'est vrai.
Ouais.
Le deuxième truc, je pense, c'est un peu de... Il y a quand même un... C'est pas un souci, mais tu vois que sur le cardio ou les trucs et tout, il y a du travail encore.
Ça.
Tu vois qu'il tape dans le rouge dans les quatrièmes cartons. À tous les...
Moi, je trouve ça va. Mais ok, j'entends.
Moi, je trouve qu'il y a des choix qui démontrent un manque de lucidité, qui démontrent un manque de cardio, je trouve. Et surtout... J'aurais dû commencer par ça, mais en fait, paradoxalement, il faut qu'il apprenne. Ce qui lui manque, c'est presque les fondamentaux du poste de pivot. En fait, il a tout le reste, du shoot, du dribble et tout. Mais il manque des tout petits trucs. Il y a la taille et tout, mais tu vois, cette petite zone, un push-shot à la Hartenstein là.
Un lancer move, moi, ça fait partie.
Un push-shot sur la longueur.
Des petits hooks à la Jokic là.
Voilà, des trucs de base.
C'est vrai,
de pivot,
ça j'aime bien.
Un petit début de poste.
Donc du travail sur
des moves où t'as quelque chose de moins compliqué qu'un fadeaway jumper ou un. Des up and under avec ça, j'en sais rien, mais des trucs fondamentalement de pivot. Parce qu'en fait, Wembanyama joue presque plus stretch 5, ailier, etc. Et moi, dans cette, il me manque peut-être des pour les autres aussi, la structure qu'apporte un vrai pivot. De temps en temps, les Spurs l'ont pas avec Wemby sur le terrain.
Oui.
De temps en temps, il y a un peu trop un 5 out avec des. Et de, tu vois ce que peut mettre, ce que pose parfois un Hartenstein dans sa façon de jouer pivot, en attaque, je parle. Wemby doit un petit peu s'en inspirer pour moi. Je pense. Des trucs simples de poste de pivot et pas tout le temps chercher le truc à la Kevin Durant, je trouve.
Bah, moi, en complément, moi, j'ai quelques points aussi pour Victor. Le go-to-move.
Ouais.
On est à un, demander la balle en free throw line extended ou à 45 degrés et il apprend le one leg de Dirk pour avoir un move indéfendable. Wemby peut et va avoir un move indéfendable, comme toutes les grandes légendes. Toutes les grandes légendes au scoring ont un move indéfendable. Wemby doit rentrer dans cette discussion-là à terme.
Vas-y, réapproprie-toi le hook de Kareem Abdul-Jabbar.
Ce
parti,
que tu veux, je ne sais pas si c'est one leg Dirk, je ne sais pas si c'est le
Crée-nous
hook.
Crée-nous ton sky hook.
Je ne sais pas si c'est quoi que ce soit, tu vois. Mais tout à fait, un espèce de truc de Victor qui devient son LaMarcus Aldridge, tournage épaule droite et ça rentre. Sur la cardio, moi, je suis plutôt comme Alex. J'ai été assez épaté de sa façon de traverser ses playoffs. C'est-à-dire que le mec, il se tape Portland, Minnesota, OKC et les Knicks. Et que le mec se soit pas blessé et tenu. Il a pris des coups d'enculé, pardon.
Évidemment.
Qu'il est vachement tenu là-dessus. Moi, c'est plus, et il en a parlé lui-même, comment se gère en intensité un match complet. C'est-à-dire, pas faire un gros carton puis une absence, mais les très grands joueurs, les LeBron, les Curry, les compagnies, etc., ils arrivent à être très bon dans les bons moments. Et ça, c'est le troisième point, moi, que j'ai hâte qu'il observe cet été, je pense qu'il va le faire, c'est Brunson, quand il reste, tu l'as dit tout à l'heure, Alex, quand il reste 90 secondes à jouer dans le troisième quart et qu'il faut juste mettre 2 paniers, il les met. Il sait exactement, Brunson, sur quoi appuyer. On a été...
Mais le groupe aussi. Hein.
Tout à fait, mais Victor, il l'a dit en voyant notamment Brunson, il était hyper frustré en conférence de presse, c'est... Ces mecs-là, là, les LeBron, ils filent la chiasse à leurs adversaires parce que tu sais que s'ils restent 4 possessions et qu'il faut prendre 4 bons choix, il y a 4 bons choix. Mais... Victor ne peut pas être passif par rapport à ces situations-là. Il doit être en décision même de ces situations.
J'entends tout ce que vous dites, hein. Mais s'il a 22 ans, c'est sa troisième saison. Non, il est déjà passé en une intersaison. Il est déjà passé de ouh là là, il est un peu frêle, il peut se casser, à j'arrive en forme en play-off et je déboîte des bouches.
Mais mot pour mot, ce qu'on dit sur les Spurs.
Et je score dans tous les sens.
En fait, mot pour mot, ce qu'on dit sur les Spurs, il devrait pas encore être là, donc ne soyons pas trop sévères alors qu'il y a des failles, c'est exactement pareil.
Mais c'est pour ça que je parle de progression naturelle, moi, parce que je pense que cet été, il va travailler. En plus, il n'y a pas de compétition internationale, en plus, donc il va pouvoir se reposer et travailler.
Ah, ouais. Mais c'est ça aussi d'être surdoué, d'avoir autant de talent, que ce soit pour les Spurs ou Wemby. C'est
folles.
Que du coup, tu excèdes les attentes et du coup, les failles qu'on voit, elles sont réelles.
Franchement, depuis LeBron,
elles sont réelles. T'es pas censé, elles sont pas censées être exposées parce que t'es pas censé être là, mais dans les faits, t'es tellement fort que t'y arrives en finale et tu peux pas nier que les failles. On l'a vu, on voit les... Moi, je tirais sur Wemby pour finir. Il y a un truc qui me chagrine un peu, mais pourtant, il est jeune. Tu parlais de LeBron, Bastien, et de cette maîtrise. Il y a effectivement ces 4 possessions de suite là où tu te trompes pas. Mais je trouve surtout dans des LeBron, c'était le début. Oh, Steph, il y avait un peu ça au tout début, rappelez-vous. Il y avait ce qu'on peut appeler le plancher. Steph, de temps en temps, il y a des moments où tu dis hey, Steph, tu déconnes, ça fait 3 possessions là. Il y a eu un trou d'air, il y a une passe dans le dos débile. Même si t'es le meilleur shooter de l'histoire de l'univers, t'étais peut-être pas obligé de prendre un truc à 10 mètres là à ce moment-là. Vous voyez ce que j'ai un plancher qui est parfois un peu troué. Wemby, je trouve, il y a des moments vraiment où.
Home run.
Dans le clutch, il y a 2-3 possessions de suite où c'est pas bon. C'est pas bon les choix.
Et c'est normal à 22 ans.
Et comme il lâche pas l'affaire, il force. C'est pas qu'il forçait, mais il cherchait du coup à refaire encore mieux. Et du coup, c'était l'erreur qui faisait l'erreur.
C'est normal à 22 piges.
C'est normal.
C'est normal à 22 piges.
Et progression naturelle, quoi.
Évidemment.
Tu peux pas lui demander ça cette année.
Non,
Et je suis le reste de la ligue. Moi, je suis très effrayé. Parce que je me dis, là, en fait, Wemby, il a eu le droit en accéléré à quelque chose qu'il aurait dû avoir que dans 2-3 ans.
C'est ça.
Qu'est-ce qui te manque encore vraiment gros pour gagner le titre? Et normalement, ça aurait dû être exposé par phase de une finale de conf là, perdu contre l'Oklahoma en 7, peut-être l'an prochain encore une finale de conf, voire peut-être une finale perdue. Et là, en un an, il a pris en accéléré en fait. Bon, bah, les marges de progression, je les connais, les défauts, j'ai été exposé dans la lumière à une finale NBA, j'ai vu concrètement, c'est pas juste de manière fantasmée ou je sais pas quoi, il a vu vraiment ce qui lui manque pour gagner le titre.
Pour moi, Wemby, Castle et Harper, d'ailleurs, c'est valable pour eux deux, même s'ils sont. Ils sont pas les franchise players, ils sont voués à être les lieutenants de Wemby qui est fou. Ça c'est évident et je pense ça leur va très bien et tout. Le leadership de Wemby, on en parle ou pas? À 22 ans, sur sa première campagne de playoff, le mec c'est le leader. Tout le monde le suit. Là, tout le monde est prêt à se faire couper un bras pour Wemby. C'est extraordinaire déjà son leadership. Donc pour moi,
dans le match
les
2,
trois.
Là, quand ils sont en moins 14 et qu'il est animé sur le banc,
les
et
trois
tout,
jeunes,
personne qui parle, tous les mecs.
Les trois jeunes. Doivent le staff doit leur dire hey, vous reposez, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, je veux pas vous voir pendant 2 semaines ou 3 semaines, nous le staff on va travailler et tout, le front office va bosser pour voir et on vous tiendra au courant pour voir s'il y a des ouvertures pour amener des joueurs et tout, mais il va y avoir un vrai travail à la Spurs qui va être fait, on espère en tout cas, c'est-à-dire un travail en cohérence. Si tu trades Fox, qui est-ce que tu fais venir? Parce qu'il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Si tu trades Vassell avant Fox, comment la fanbase va le prendre? Enfin, tous ces trucs-là. Mais clairement, là, tu as 3 jeunes exceptionnels, même si les finales de Castle sont un peu sur la pente descendante, son Game 5 est complètement raté, il a perdu trop de ballons, plein de trucs à dire, mais concrètement, tu vas voir Castle fait... souffle un coup, va faire autre chose, va jouer au baby-foot et à la piscine ou j'en sais rien, enfin on s'en fout, vous voyez bien, et reviens juste, tu vas voir, tu vas être plus fort l'année prochaine. En fait, ce sont des joueurs qui l'année prochaine
auront juste un peu plus.
Ouais, en fait,
26 ans de moyenne d'âge,
juste,
25.
Et tu sais quoi, juste tu lui dis, vas-y, on se retrouve au training camp, le mec il fait le mois de septembre et tout, il est plus fort.
Et
C'est
pour ça que quelque part, je sais, c'est bizarre de vouloir garder ce groupe. Ce groupe-là se dit la saison prochaine, on peut gagner 66-70 matchs. Moi, j'ai pas de problème.
Ou en tout cas,
là, ces Spurs-là, là, ce qu'ils viennent de faire en play-off, au secours, les mecs, ils vont devoir affronter, excusez-moi, là, Utah et Washington. Bon, c'est cadeau. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Hein. Là, ils viennent d'apprendre à gagner en 7 à OKC. À se faire remonter les plus 29. Non, mais je veux dire, les gars, ils vont ramener en saison régulière, ils vont faire. C'est ça, là, maintenant, le boulot.
Et même, Bastien, je vais te dire encore pire. Au-delà même du nombre de wins en régulière, c'est une équipe qui peut déjà se dire. Alors que c'est la saison 2 seulement, ça va être la saison 2 seulement de ce groupe. Ils peuvent déjà se dire, si on est à 100%, ils font partie de ces équipes-là. Si on est à 100% mi-avril, on est candidat au titre.
Et on va surveiller OKC.
Et on va surveiller OKC. Ouais. Et puis je sais pas, on verra s'il y a une autre équipe qui fait un gros move, genre ça. Ouais. On va surveiller les Knicks à l'Est ou quoi. Enfin, tu vois, genre ça. Ou je sais pas, on voit les rumeurs Giannis à Boston ou quoi. Bon, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça y est. Ouais. Ils font partie du club de.
Non, vous avez
tous
raison.
Les trois, on va être là.
Le seul
100%
truc, il faut digérer cette défaite.
Vas-y.
Le seul,
faut digérer.
Pour pas paniquer, il faut digérer cette défaite. Il faut comprendre, mais ce qu'on fait bien là, que c'est un privilège en fait d'avoir. C'est le privilège de ton talent d'avoir été ainsi exposé en finale.
C'est
parce c'est que
vrai.
C'est le prix voilà c'est et pas vrai. Le voir comme
le privilège du talent c'est de se faire fumer en finale
et pas le voir comme que les mauvais côtés et se dire en fait c'est parce qu'on est en avance, c'est parce qu'on est très fort, c'est parce qu'on a Wemby machin et tout que on s'est fait exposer en finale parce qu'ils sont fait exposer, il y a pas de problème.
Tout à fait.
Mais du coup t'as un cycle là normalement de 3-4 ans tranquille, déjà on verra plus tard et tout, où tu vas régler ces problèmes. Et ça en fait ce que t'as montré, si ça se trouve, c'est ta moins bonne c'est ta campagne de play-off où t'es le plus inexpérimenté.
Ah non, mais c'est...
Où l'effectif est le plus mal construit dans les 3-4 années qui viennent, parce qu'on l'a vu là avant et tout, ça va sans doute se régler. Où Fox a été le plus mauvais qu'il n'a jamais été, et où Harper et Castle et Wemby découvraient les playoffs. Vous imaginez ?
La NBA va très vite. Et je suis d'accord avec toi, Simon, mais la NBA va très.
C'est vrai
très
que
vite.
Ça fait très penser à Oklahoma en 2012. On disait qu'ils ont perdu contre Miami, mais bon, rendez-vous l'année prochaine, puis l'année d'après, puis l'année d'après.
Ils ont 6 ans devant eux ? Non. Non. Ils
c'est
ont
pour ça que je parlais de 3-4.
Voilà, faut gagner l'année prochaine.
Pour finir cette émission, évidemment, et surbasculer sur les Knicks, mesdames et messieurs, je vous rappelle évidemment que nous sommes dans la plus grande ère de parité de l'histoire de la NBA. 8 champions différents sur les 8 saisons dernières : Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics, Thunder et Knicks.
Dont. Les Raptors, premier titre de l'histoire de la franchise. Le Thunder aussi, évidemment.
Les Bucks,
encore
que
les Supersonics, mais on le compte ou
les
pas.
Les Nuggets, tu peux y aller.
Nuggets premier. Enfin, tu vois, genre, en plus, non seulement c'est en plus, il y a des nouveaux, quoi.
Et les Knicks, c'est pas le premier, mais bon.
Non. Presque.
Est-ce que c'est Knicks, du coup, vu qu'on a parlé pas mal des Spurs, est-ce que c'est Knicks touche à rien, repartent avec le même groupe et sont, du coup, favoris à leur propre succession?
Bah, franchement, je pense que tu touches à rien.
Bah là déjà tu touches à rien, t'as la moitié de New York qui fait une émeute, je pense. Les mecs sont adulés. Vraiment, en tout cas
là,
à New York, quoi qu'ils fassent là, que l'an prochain s'ils veulent, ils peuvent même s'ils ratent les playoffs et tout. Là c'est mythique. C'est des héros à vie. Anunobi. Je pense qu'il y a quelque chose. Et eh bien vous l'avez vu dans ce titre, le concert du Wu-Tang. Method Man qui dit Knicks in 5 alors qu'il y a moins 19 là à ce moment-là, je sais plus combien. Tu t'y mets d'abord. Il y a une espèce de truc.
Pronostiqueur élite.
Non mais c'est fou, la façon dont la malédiction Knicks s'est brisée et dans le vraiment là c'est du storytelling pur mais le casting, les matchs, le côté résilience, les remontadas, la claquette d'Uji Brunson, c'est incroyable, c'est le meilleur des scénaristes n'aurait pas pu faire un titre plus Knicks que ça.
Mais là
je pense.
Tu kiffes, tu fais ta parade, tu célèbres les types ont gagné collectivement. Moi je le maintiens même si voilà j'ai trouvé ça incroyable par les Knicks. Ils ont pratiqué un basket, je sais pas comment dire, efficace, de soldats et tout, mais c'était pas genre le beautiful basketball ou les Warriors champions ultra dominants et tout. Je veux pas dire que c'était pas du grand basket, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par là, c'était pas flamboyant,
tout.
C'est juste que collectivement, c'était incroyable. Il y a eu un cliquage collectif complètement fou. Pour moi, tu changes rien parce que changer qui, c'est quoi le contrat de Towns pour anticiper l'avenir ou alors Leon Rose. Il va tous nous fermer nos bouches en mode le mec va dire c'est maintenant que je trade Karl Anthony Towns, tu sais, parce que c'est là que j'ai
Janice,
la cote
dans une semaine.
Allez, c'est là
Janice
que j'ai la
cote.
Et Bien si sûr. Ça se trouve et dans un an les Knicks seront encore en finale NBA avec deux autres titulaires, tu vois, un truc de fou furieux comme ça. Mais là ça serait vraiment incroyable.
J'avoue que là-dessus, même si j'entends la théorie, moi je pense que si là Leon Rose le sait, s'il y a du transfert et ce qui se passe, il y a des
il a intérêt d'être champion. Il a intérêt d'être champion.
Non mais là tu touches pas, c'est trop.
Là t'enlèves Anthony Towns, t'enlèves genre
c'est la famille,
t'enlèves Chamette même, il y a des
c'est
mecs
la
qui
famille,
mais comment tu fais venir
les
Browns du coup?
Tu fais pas venir le Browns. C'est bon, le Browns il va au cap, c'est géré, il va aider James Harden à sortir de garde à vue.
putain c'est clair
pendant ce temps là Cleveland.
Cleveland le run de playoff quoi, ils se font sweeper en finale de conf. L'autre il est en tôle, enfin non il est pas en tôle mais il s'est fait choper,
il aura un mugshot.
Au Texas il est
parade, tout à fait, parade des Knicks ce jeudi, absolument immanquable. Premier dans un premier temps. Deuxième temps, évidemment, cette phrase est réelle, remise des bagues pour les Knicks le premier soir de la saison régulière 2026-27.
Ça sert à quoi le match? On va voir.
Je sais pas, mais s'il n'y a pas Spurs Knicks à Noël, je.
Devant quel non, mais qui tu, as, ouais, qui tu veux tu as, t'es qui... la NBA, tu fais quoi? Tu fais un Knicks Celtics?
Ou ouais. Ce qui va se passer
Knicks
avec
Lakers,
la.
Ah,
souvent, pas, hein. Ce qu'ils font, c'est avec la free agency ce qui se passe. C'est-à-dire que si par exemple Boston récupère Giannis.
Knicks Celtics.
Tu fais Knicks Celtics et à Noël, t'as Knicks Spurs.
Non, Simon, tu fais quoi toi?
Moi, je suis taquin, mais je sais pas si j'invite pas Indiana, moi.
Oh non,
ouais, pour la rivalité historique, mais c'est moins cool. Ouais,
c'est
non,
moins
Celtics,
rigolo
ouais.
Quand même.
Mais c'est quand même Knicks Celtics potentiellement.
C'est moins Adam Silver. C'est moins Adam Silver.
Et très probable Spurs Thunder ou Spurs.
Ou alors,
Lakers,
mais t'es vraiment un bâtard, tu réinvites les Spurs quoi. Ouais. Jusqu'au bout, le calice jusqu'à la vie, tu fais la remise de bagousse devant
si
les
le
Spurs.
Tout à fait. Si tu fais le pépère à Cleveland, c'est peut-être aussi un Knicks Cavs. Hein. Le pépère de 41 ans.
Ouais, j'ai capté. Ouais, ouais.
Non, c'est ça.
Ouais, non.
C'est les Celtics, là, je pense qu'il faut. T'instaures la rivalité avec les Celtics. Si Giannis arrive, en plus, on en reverra. Si ça se trouve, on se revoit très vite, hein, d'ailleurs, pour, vu que ça chauffe, là.
Ah bah. Nous, c'est ça la suite. C'est
ça
que
se trouve,
suite.
Demain, il y a un apéro, le géant
vert.
Absolument. L'actualité ne s'arrête pas. Giannis, dans les rumeurs de transfert.
Il y a la draft.
Attention, il y a la draft sur la free agency. Nous, ce qui est sûr, c'est que la saison 2025-26 s'achève sur les parquets. Les Knicks sont champions NBA. Bravo aux Spurs pour ce parcours. Bravo à toutes les franchises qui ont tenu. On s'est régalé. C'était un grand cru. Vous pourrez raconter plus tard aux enfants que vous avez connu les Knicks champions NBA. Merci aussi à Nico Vrigno qui est capable de dire qu'il a fait l'opening à OKC pour la remise des bagues et il était à San Antonio ce week-end pour faire le titre des Knicks à San Antonio.
Il a fait une saison le
Nico. Saison.
Absolument. Je veux dire évidemment un grand merci à Alex, à Simon, à Léonce évidemment et à Robin pour tout l'aspect vidéo, à toute l'équipe de Trash Talk qui va continuer là à trimer parce que on va voir plein de choses d'adraft,
free agency
et des transferts. L'actu ne s'arrête pas, mais les Knicks sont champions NBA et c'est réel. Vous avez quelque chose à ajouter ou on vous fait des gros bisous?
Non,
on est bien.
Bravo les Knicks.
Bisous tout le monde.
Gros bisous.
On vous fait des gros bisous et à très vite sur votre chaîne YouTube préférée. Ciao.